Bonjour! Incroyable! Bienvenue à toutes et à tous, bonjour! Merci d'être là, comment ça va? En 2025, je vais fêter mes 8 ans de follow à la chaîne de Jean Massier! Incroyable! C'est vrai que c'est incroyable, merci à toi. Combien d'années d'abonnement sur ces 8 ans? Merci beaucoup. Bienvenue, hein! Petite FAQ politique, y a pas de questions au gouvernement, hein? Bah non, mais c'est fini! C'est fini ces histoires-là! Terminé! C'était hier, la séance des questions à Bayrou. Il n'y a toujours pas de gouvernement. Pas de gouvernement. Hein. Je mange de la bolo perso, mais t'as bien raison. T'as bien raison. C'est le meilleur plat. Pas de grand oral de Bayrou. Bah non, pas aujourd'hui. Non. Non, puis ça n'arrivera plus, hein, puisque la prochaine, ce sera à la rentrée et il y aura un gouvernement. Donc. Voilà, c'était un one shot. Ici, sandwich au soleil à la gare de Montpellier. Montpellier Saint-Roch ou Montpellier Sud de France? Attention, faut être précis. Team Cookie du Crous. Ah, formidable. Les députés sont en vacances, les députés sont en suspension de travaux. Le calendrier de la session parlementaire prévoit des périodes de pause dans les travaux à l'occasion des fêtes de fin d'année. On reprendra les travaux le 13 janvier. Et le lendemain, le mardi 14, il y aura le discours de politique générale de François Bayrou. Il y a une semaine aussi en février, fin février, début mars, qui est bloquée. Et ensuite, en avril, il y a 15 jours de suspension des travaux. Voilà les trois périodes de suspension des travaux de l'Assemblée nationale. Saint-Roch avant le TGV vers l'Alsace. Ah, formidable. Est-ce que le chat est toujours là? Non, le petit chat n'est plus là. Le petit chat, il était juste de passage à Paris. Question concernant les fonctionnaires. Est-ce qu'il y a vraiment un risque concernant les traitements ou pas? Non. Les traitements, je vous rappelle, c'est le salaire des fonctionnaires. Les fonctionnaires ne touchent pas un salaire, ils touchent un traitement qui est attaché à leur fonction publique. Bref, pas dans le détail. Non, il n'y a pas de risque puisque la loi spéciale a été adoptée. L'Assemblée nationale et le Sénat ont voté une loi spéciale qui permet au gouvernement de reconduire les crédits de l'année précédente. Donc il y aura bel et bien les salaires, les traitements, pardon, qui seront payés à la fin du mois. Rassurez-vous. Est-ce qu'ils peuvent quand même aller bosser à l'Assemblée dans les bureaux? Oui, bien sûr. Ah oui, non, c'est ça, les députés, ils ont accès aux bureaux pendant les périodes de suspension, hein, bien sûr, oui. Il n'y a pas de réunion de commission, il n'y a pas de réunion de groupe, il n'y a pas de réunion de la séance publique. C'est une suspension des travaux. Mais les députés peuvent aller bosser. Et moi qui suis prolo chez Leclerc, je vais être payé, j'espère. Bah oui, les salariés du Leclerc de Pont-l'Abbé vont être payés. Mais ça n'a rien à voir avec l'État, pour le coup. Apparemment, Bayrou et la droite veulent revenir sur l'interdiction du cumul des mandats. Absolument, François Bayrou a annoncé en direct de la mairie de Pau, du conseil municipal de Pau même, qu'il avait l'intention de proposer, semble-t-il, une loi. Il n'a pas prononcé le mot projet de loi, mais on a compris que c'était son intention, visant à revenir sur l'interdiction du cumul des mandats. Est-ce qu'il est possible de convoquer une session extraordinaire malgré tout? Oui, absolument. Quand l'Assemblée est en suspension de travaux, il est toujours possible, en urgence, de convoquer une session extra, enfin, une reprise des travaux pour avancer sur des dossiers, etc. Ça, c'est toujours possible. Pareil quand on est hors session, hein. Quand on est hors session ordinaire, on peut toujours déclencher une session extraordinaire. Il y a même certaines sessions qui sont de droit pour le Parlement pendant, enfin, dans certains cas prévus par la Constitution. Les administrateurs de l'Assemblée, ils font quoi du coup? Bah, qu'est-ce que tu crois qu'ils font les fonctionnaires de la mairie quand la mairie est fermée? Ils se reposent? Peut-on s'attendre à une légère recomposition des groupes à l'Assemblée? Non. Non. Les groupes, ils sont formés, les groupes, ils ont été élus. Ce qu'on verra en janvier, c'est si François Bayrou a réussi ou pas à négocier un accord de non-censure avec des groupes à l'Assemblée. C'est ça qu'on verra. Est-ce que le groupe Ensemble est plutôt pour ou contre le cumul des mandats? Alors, le groupe Ensemble, à ma connaissance, ne s'est pas vraiment exprimé sur le sujet. Une des raisons à ça, c'est que le groupe Ensemble, donc les macronistes, ils sont très peu à être élus locaux. Le macronisme, je vous rappelle, c'est une force nouvelle qui est apparue en 2016-2017 et qui a rempli l'Assemblée avec des députés néophytes. Donc pas des députés maires, pas des, enfin voilà, pas des maires, des élus locaux, etc. Sauf certains d'entre eux, mais... Donc il n'y a pas d'intérêt particulier pour le groupe Ensemble au cumul des mandats. Voire même, on pourrait argumenter que c'est grâce, ouais, en partie, à l'abolition du cumul des mandats que le macronisme a été rendu possible à l'Assemblée. En partie. C'est évidemment le vote des Français qui a décidé, mais... François Bayrou, il reste maire parce qu'il sait qu'il ne va pas faire long feu en tant que Premier ministre. Oui, c'est tout à fait sans doute vrai. Tout à fait. Mais on peut quand même en penser quelque chose. Enfin, je veux dire, même si on comprend bien les intentions de François Bayrou, on peut quand même considérer que c'est pas normal que le Premier ministre continue à exercer ses responsabilités de maire dans sa ville, en plus de ses fonctions de Premier ministre de la République française. Il n'y a pas d'attache territoriale chez Ensemble. Il n'y a pas beaucoup d'attache territoriale chez Ensemble. Ceux qui ont vraiment des attaches territoriales, ce sont les partis les plus anciens, les plus installés, les Républicains, le Parti Socialiste, le Parti Communiste. Les écolos maintenant, depuis peu, c'est relativement récent, notamment grâce à leurs accords avec les socialistes, hein, au niveau local. Donc voilà. Est-ce qu'on peut être maire et député suppléant? Oui, bien sûr. Ah oui, ça complètement, oui. Tu peux être maire et député suppléant. Par contre, si jamais le député que tu supplées vient à mourir, et que tu deviens député toi, t'es obligé de quitter ton mandat de maire. Ça, c'est la loi d'interdiction du cumul des mandats. Comment tu obtiens les signatures pour la présidentielle sans liens locaux? Bah tu bosses. Tu bosses, hein. Tu vas rencontrer les élus locaux, tu vas les solliciter. Je vous rappelle que Lutte ouvrière, ils ont aucune mairie en France, hein. Zéro, Wallou. Bon bah à chaque élection présidentielle, ils ont 500 signatures. Donc il faut bien aller les chercher. Est-ce que tu peux pas quitter ta suppléance plus tôt? Alors si tu peux, effectivement, si tu es député suppléant, enfin si tu es suppléant de député plutôt, et que tu te retrouves à devoir devenir député du jour au lendemain, tu as toujours la possibilité de démissionner de ton mandat, de ton tout nouveau mandat de député. Ça, tu peux tout à fait refuser de devenir député, sauf que du coup, ça déclenche une élection partielle dans ta circonscription. Et il est possible que politiquement tu n'y aies pas intérêt. Il y a moyen que tu reçoives 2-3 coups de fil de Paris qui te disent, écoute mon grand, j'ai bien compris tes problèmes familiaux, etc. Mais t'as accepté être député, t'as accepté être suppléant. Maintenant t'es gentil, tu prends un billet de train, tu montes à Paris et tu deviens député. On a besoin de toi dans le groupe. Et si on fait une élection partielle, on va la perdre. Ouais, mais ça m'arrange pas. Non, non, mais ferme ta gueule, en fait. Non, non. Donc je vous le dis, hein, si un jour on vous propose de devenir suppléant, sachez dans quoi vous vous engagez. Sachez dans quoi vous vous engagez. Salut Torpello, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il est toujours haut commissaire au plan Bayrou? Non. François Bayrou, dès lors qu'il a été nommé Premier ministre, a quitté ses fonctions précédentes. Si ton député devient ministre, le suppléant doit lâcher sa mairie. Ouais. Enfin, ce que je viens de te dire, c'est-à-dire soit il lâche sa mairie pour devenir député, soit il refuse de monter à Paris pour devenir député, il veut garder sa mairie, mais à ce moment-là, il est obligé de démissionner, ce qui déclenche une nouvelle élection. Est-ce que les suppléants touchent une rémunération? Aucune. Walou, que dalle. Suppléant, c'est pas un poste, c'est pas un mandat, c'est pas une fonction, c'est pas une fonction publique, certainement pas, c'est pas... Non, non, c'est rien du tout, juste que... T'es sur la liste. Vous savez, c'est un peu comme quand vous rentrez à l'hôpital et qu'on vous demande le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence. Vous mettez le numéro de votre maman, là. Chaque fois, parce que c'est le seul qu'on connaît par cœur encore. Bah, c'est pareil, un suppléant, c'est ça. Il y a juste son numéro qui est là, qui est prêt. Et si jamais, eh ben, c'est lui qu'on appelle. Voilà. Est-ce que tu peux être suppléant et collaborateur parlementaire? Absolument. Oui, il y en a plusieurs qui le sont d'ailleurs. Hein. Tu peux être suppléant et collaborateur parlementaire du député que tu supplées. Tu touches rien quand tu remplaces ton député? Ah là, si! Si, si. Si tu supplées ton député, tu deviens député. Donc tu touches une indemnité de député. Oui, là, tu deviens vraiment député. Mais avant, non, il n'y a rien. T'es suppléant, hein. Est-ce qu'on a le droit de changer de suppléant? Non. Le suppléant, il est. C'est au moment de l'élection, le suppléant. Tu peux pas en changer après. Non. Quand vous votez, je vous rappelle que quand vous votez aux élections législatives, vous votez pour le nom d'un député, enfin d'un candidat député, et le nom de son suppléant qui est écrit sur le bulletin. Tu peux pas changer. Est-ce que la maman du député peut être son suppléant? Oui. Oui, tu peux. Tu peux appeler ta maman et lui dire « Maman, ça te dérange pas si je mets ton numéro dans un truc administratif, cherche pas, c'est une histoire de... C'est la politique, tu sais. » Et comme ta maman, elle est gentille et qu'elle t'aime beaucoup, elle dit « Oui, mon chéri, tout ce que tu voudras. » Hop, t'es élu député. Et un an plus tard, tu te retrouves ministre. Bah là, tu dois rappeler ta maman en disant « Tu te souviens, maman, il y a un an, quand tu m'avais dit que t'étais OK pour le truc? » Ouais. Bah du coup, une chose en entrée dans une autre... Que tu prennes un billet de train pour monter à Paris et que tu y sois tous les jours à partir de la semaine prochaine pendant 3 ans. Est-ce que ça arrive que le suppléant et le député soient dans deux groupes différents, étant donné que les gens changent parfois pendant un mandat? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Surtout qu'il peut arriver qu'il y ait des accords qui soient faits. Pour que le candidat, par exemple, je donne un exemple, un mec dont on se doute qu'il va devenir ministre, un bonhomme qui est une figure du parti politique au niveau national, on pressent que les sondages vont donner ce parti vainqueur, le mec a toutes les chances de devenir ministre, c'est à peu près sûr, etc. Bon, bah, peut y avoir un deal qui est passé au niveau local en disant, j'ai le mandat de député et je fais un deal avec le parti politique voisin en disant je vous prends comme suppléant. Comme ça, vu que dès l'élection je vais devenir ministre, vous devenez député et vous allez siéger avec vos amis qui sont des copains. Voilà. Ça peut arriver. C'est possible, ouais. J'ai le souvenir, alors, un autre truc différent, d'une députée socialiste qui avait une suppléante socialiste. Jusque-là, rien de problème, rien de problématique. La députée est devenue ministre. Et la suppléante, elle était du côté des frondeurs du PS. Donc, ça faisait un truc un peu bizarre parce que le gouvernement était content parce qu'ils avaient une députée et une ministre de plus, mais par contre, ils perdaient un député soutien et ils offraient un député au camp des casse-couilles. Du coup, elle était frondeuse d'un gouvernement auquel appartenait sa députée titulaire. Et la raison à ça était tout simple, c'est qu'en fait, l'accord local qui avait été fait avec le Parti socialiste local, c'était un deal entre la candidate députée qui était proche de François Hollande, qui était plutôt proche de François Hollande, et la gauche du Parti socialiste local, qui était assez puissante localement, qui a dit bah, nous, on demande à avoir la suppléance. Comme ça fait l'unité du Parti socialiste. La titulaire, elle est Lignarde. La suppléante, elle est frondeuse. localement, on est tous contents. Bon, bah, sauf que la députée est devenue ministre, du coup, la suppléante est devenue députée. Les frondeurs, c'était les macronistes, non? Ah non, rien à voir, c'était l'inverse. Ah non, non, les frondeurs du Parti Socialiste, c'était un groupe de députés au sein du Parti Socialiste, au sein du groupe socialiste, qui contestait la politique menée par Manuel Valls. Les frondeurs, c'était la gauche du Parti Socialiste, c'était Benoît Hamon. Lignard, j'ai dit lignard. Ce qu'on appelle les lignards en politique, ce sont les militants, les élus qui sont dans la ligne du parti. C'est notamment historiquement au Parti communiste, on disait les lignards, c'est les mecs qui défendent la position du parti tout le temps. Le parti, tu suis la ligne. Voilà, c'est ça qu'on appelle un lignard. Macron a récupéré des frondeurs, notamment après la loi sur la déchéance de nationalité. Alors, loi qui n'a pas été votée, en l'occurrence. Mais Macron, je ne vois pas très bien quel frondeur il a récupéré. Hein. Parce que les frondeurs, ils sont barrés avec Benoît Hamon, avec... comment il s'appelait, le ministre du redressement productif? Arnaud Montebourg. Même Christiane Taubira s'est barré. Ah, il y avait Richard Ferrand. Richard Ferrand, il était plutôt proche des frondeurs. C'est marrant, ça. Ouais. Olivier Dussopt, ouais. Olivier Dussopt. Hamon, c'était quelle ligne au PS? Bah, c'était les frondeurs. Hamon, c'était les frondeurs. C'était la gauche du Parti Socialiste. C'était des gens qui n'étaient pas d'accord avec la politique économique qui était menée, quoi. Donc ils étaient contre la loi Macron, ils étaient contre la loi travail, ils étaient contre le CICE. Ouais, c'était l'aile gauche, quoi. Cambadélis et sa palette. Cambadélis et sa palette, c'était en 2017. Alors Cambadélis, c'était pas un frondeur. Cambas, c'était un des lieutenants de Dominique Strauss-Kahn. Hein. Cambas, c'est la deuxième gauche. Comment se fait-il que les ministres démissionnaires aient pu voter après les législatives? Bah, ceux parmi les ministres démissionnaires qui étaient députés ont retrouvé leur siège de député. Dans une assemblée qui venait d'être élue. En fait, ils venaient d'être réélus. Tu pronostiques quoi pour le printemps? Grosse grève? Moi, je pronostique que dalle. Je vous ai dit avant la nomination de François Bayrou que moi, François Bayrou, j'y croyais pas. Maintenant qu'il est nommé, je vous confirme, j'y crois toujours pas. Je vois pas ce que François Bayrou peut réussir à créer comme attelage qui permet d'avoir une non-censure majoritaire à l'Assemblée. Ça va être une question de temps. Est-ce qu'il va annoncer qu'il refuse d'utiliser le 49-3? J'y crois pas non plus. Il n'a pas vraiment intérêt à le faire. Est-ce qu'il y a des politiques qui se retrouvent dans la mouise professionnellement après la fin de leur mandat? Absolument. Il y a une enquête qui a été faite par le journal Libération sur les anciens députés, notamment macronistes, mais pas seulement, qui se retrouvaient dans la merde après leur mandat de député, parce qu'ils expliquaient, dans l'article, ils avaient fait une enquête, ils étaient allés les rencontrer et tout, et les mecs expliquaient, les mecs et les nanas expliquaient que, en fait, les entreprises ne les voulaient pas. Les entreprises n'ont pas envie de recruter un député. Les managers ont l'impression que les politiques, c'est tous des cons, ils savent rien faire, c'est des débiles, etc. Et les mecs, ils disaient qu'en fait, le fait d'avoir été député une fois dans leur vie, ça a été un harakiri sur leur carrière professionnelle. Ils sentent bien qu'ils sont rincés, que personne veut les embaucher. Voilà. Si une censure contre Bayrou est déposée, elle sera étudiée quand? Avant ou après sa politique générale? Après sa politique générale, puisque le dépôt d'une motion de censure entraîne son examen dans les 48 heures qui suivent, et la politique générale sera prononcée dans les premières 24 heures de séance, de session. Donc, enfin, de reprise des travaux, plutôt. Est-ce qu'il y a un monde où Bayrou demande un vote de confiance? Oui, s'il réussit à trouver un deal avec les socialistes et les républicains, ce à quoi je ne crois pas un quart de seconde. Ce serait un bon move de sa part. Maintenant, tiens, puisqu'on fait de la politique fiction, imaginons un scénario dans lequel François Bayrou sollicite la confiance des députés et ne l'obtient pas. Les députés ne votent pas majoritairement la confiance. C'est ballot. Politiquement, c'est pas ouf. Et imaginons que quelques jours plus tard, une motion de censure soit examinée et qu'elle ne soit pas adoptée. Ah. Alors du coup, non, mais c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il n'a pas la confiance, mais il n'a pas non plus la défiance. C'est un peu quantique, hein, comme situation politique. Bon, techniquement, ce serait réaliste. Enfin, voilà, c'est compte tenu de l'Assemblée qu'on a aujourd'hui, ça me paraît pas absurde qu'un Premier ministre ne parvienne pas à obtenir la confiance, mais n'ait pas pour autant la défiance. Je vous rappelle que c'était exactement ce qui s'est passé pour Élisabeth Borne. Alors, Élisabeth Borne n'a pas sollicité la confiance, elle n'était pas bête, savait très bien qu'elle l'obtiendrait pas, mais elle n'a pas non plus été censurée. C'est ce que Jean-Louis Bourlange ou Hervé Marseille, je sais plus, un des deux, avait appelé l'onction de censure. J'aime bien cette expression. L'onction de censure. C'est-à-dire que tu n'as pas la confiance de l'Assemblée formellement, mais l'Assemblée n'arrive pas à te démettre. Bon, bah techniquement, c'est que tu as un peu la confiance quand même de l'Assemblée. Enfin, indirectement, en négatif. La cinquième est tellement finito. Alors, peut-être, certainement même, mais tout ce que je suis en train de vous dire là, ça n'a rien à voir avec le président de la République. Hein. C'est du parlementarisme pur. Je ne sais pas quelle sixième République vous imaginez dans votre tête, mais si dans votre sixième République, il y a toujours une Assemblée nationale élue par les Français, et qu'il y a toujours un Premier ministre responsable devant l'Assemblée, tout ce que je suis en train de vous dire continuera à potentiellement exister, potentiellement en fonction des résultats des élections. Donc je vous pose la question, si vous voulez changer les institutions, vous voulez changer quoi pour empêcher ça? Le ça dont je vous parle étant une assemblée tripolarisée qui n'arrive pas à se mettre d'accord pour la formation d'un gouvernement majoritaire. Ça, c'est une donnée électorale. C'est pas une donnée institutionnelle, c'est une donnée électorale. Qu'est-ce que vous voulez faire? Changer pour résoudre le truc. Déjà, vote de confiance obligatoire. Ok, vote de confiance obligatoire. D'accord. Vote de confiance majoritaire, donc obligatoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si aucun Premier ministre n'arrive à obtenir la confiance? Qu'est-ce qu'on fait? On fait des élections? Ouais, et si ça redonne la même chose? Le président démissionne? Ok, si tu veux. Ça change rien à l'Assemblée. Hein. Là, tout ce dont on est en train de parler, c'est à l'Assemblée que ça se passe, c'est pas à l'Élysée. Il faut mettre en place une vraie culture du compromis. Oui, certainement. C'est un vœu pieux. Enfin, c'est pas un vœu pieux, non. C'est un vœu auquel je souscris à fond, bien sûr. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit il faut créer une culture du compromis, Comment tu veux forcer les groupes à participer au compromis? Tu veux pas tordre les bras des politiques, ils n'ont pas envie de faire de compromis, ils font pas de politique, ils font pas de compromis. Les macronistes n'ont aucune envie de faire un compromis avec la gauche. Qu'est-ce que tu veux faire à ça? La gauche, une partie de la gauche, n'a aucune envie de faire de compromis avec les macronistes. Le centrisme au pouvoir, c'est le meilleur moyen de bloquer tout compromis. Ouais. Je suis pas sûr que le RN au pouvoir, ça aide au compromis. Je suis pas persuadé. Des référendums, c'est le peuple qui tranche. Alors, les référendums, je rappelle que ça permet d'adopter une loi, hein. Ça permet pas de trouver une solution à une crise parlementaire. Un référendum, c'est plusieurs mois d'organisation, de campagne, etc. Enfin, c'est avec une question oui/non à la fin. Ça vous permet pas on peut pas gouverner un pays par référendum. C'est pas possible, ça. Ça n'existe pas. On peut poser la question par référendum de l'adoption d'une loi ou d'une autre. Mais ça peut pas être un acte de gouvernement. En plus, alors qu'est-ce que ça changerait un référendum? Prenez par exemple, imaginons que demain on organise un référendum en France, sur je sais pas quelle question d'ailleurs, et que le camp qui gagne soit pas celui de la gauche. Les députés du NFP perdent le référendum, etc. Bon. Eh ben et alors, est-ce qu'ils vont changer d'avis les députés NFP le lendemain matin quand ils retournent à l'Assemblée? Ben non, je défends toujours la même chose, hein, j'ai pas changé. Faut pas. Ah bon, allez, d'accord. Bon, finalement, ok, on vote la confiance à François Bayrou. Non, aucun député LFI fera ça. Et ils auront bien raison, ils n'ont pas été élus pour ça. Les mandats impératifs. C'est marrant, c'est en train de revenir à la mode ce truc-là, les mandats impératifs. Alors les mandats impératifs, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait qu'un député soit lié par un engagement qu'il ne peut en aucun cas modifier. Le mandat impératif, c'est la fin du parlementarisme. C'est précisément la fin du parlementarisme. Parce que le parlementarisme, par définition, c'est le pouvoir de la discussion, de l'échange, du compromis, de l'aménagement, etc. Le mandat impératif empêche la négociation. Prenez deux négociateurs, un acheteur, un vendeur, qui sont tous les deux missionnés par leur entreprise pour négocier. C'est des commerciaux. Chacun rentre dans la salle de négociation avec un prix plancher et un prix plafond, et on va discuter. Leur mandat leur autorise une marge de négo. Et c'est comme ça qu'on peut éventuellement trouver un accord. Mais si vous avez un système de mandat impératif où les deux ont interdiction de négocier, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent dans la salle? Bonjour, chantez, ça va? Ouais. C'est quoi votre prix? Ouais, je suis pas d'accord. Bon bah bonne journée, au revoir. Le mandat impératif, c'est la fin de la discussion. Donc bon, si vous voulez. Puis par ailleurs, le problème du mandat impératif, c'est que les députés, ils sont élus pour 5 ans et que vous ne pouvez pas prévoir au moment de l'élection ce qui va se passer dans les 5 ans qui viennent. Certes, mais si le référendum donne la confiance du peuple au Premier ministre et au président, l'opposition n'est plus légitime à bloquer la situation. Ah bon? Ah, c'est intéressant ça comme vision de la démocratie. Dès lors que tu as perdu l'élection, tu n'es plus légitime à t'opposer à la majorité. Exactement l'argumentaire des macronistes en 2017. On a gagné l'élection, vous n'avez pas à vous opposer. C'est antidémocratique que de s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron. s'exclama Hitler sur un ton condescendant.
C'est ça.
Ça s'appelle le fascisme ?
Oui, ça s'appelle aussi l'Union soviétique, hein, on va pas se mentir, on va pas faire l'économie de l'histoire quand même.
Tu ne peux pas t'opposer au parti, puisque le parti, c'est le parti du peuple.
Tu peux pas t'opposer au peuple quand même, camarade.
Oui, bon, voilà. Il y a des gens, enfin, je rigole, il y a des gens qui sont morts. Il y a eu les procès. À l'époque, des gens étaient condamnés à mort. Pour trahison, du coup, le crime, c'était trahison et mise en danger de la sûreté de l'État par la contestation du parti. Hein.
Ah bah attends.
T'as trahi le peuple. Ah merde.
Dix milliards de morts, le communisme, on rappelle. Ouais, 10 milliards de morts.
Oui.
Une loi adoptée par référendum a une légitimité bien supérieure à une loi adoptée par une assemblée.
Ouais.
Donc il faut construire l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui a été voté favorablement par un référendum local.
Ah non, non, en fait c'est plus compliqué que ça. Ça dépend du référendum. Celui-là, il n'était pas bon.
La question était mal posée, elle n'a pas été posée aux bonnes personnes.
Faut changer les électeurs, bah oui.
Donc je maintiens, je suis favorable à une 6ème République, je l'ai toujours été. Pour moi, la 5ème, je ne suis pas fétichiste un quart de seconde pour la 5ème. Mais toutes les questions qui sont en train de se poser à nous aujourd'hui, avec une assemblée fractionnée dans laquelle il n'y a pas de majorité absolue apparente, ce sont des questions qui se reposeront dans la 6ème République.
Intégrer pleinement les conventions citoyennes au système. Je suis complètement favorable. Ça ne résoudra absolument pas ce dont on est en train de parler, mais je suis au demeurant tout à fait favorable à ce que les conventions citoyennes qui ont été inventées par Macron, il y en a eu deux, deviennent un truc plus régulier dans notre vie politique. Et par exemple, moi, je suis favorable à ce que les conventions citoyennes puissent émettre des propositions de loi formelles déposées sur le bureau de la présidence de l'Assemblée nationale et du Sénat. Quand la première convention citoyenne a été créée, la Convention citoyenne pour le climat, Emmanuel Macron a dit dans son discours inaugural quelque chose d'impressionnant. Hein. Je me souviens, j'étais dans la salle en plus. Il a dit « Les propositions que vous ferez seront transmises sans filtre à l'Assemblée nationale. » Et tout le monde dans la salle a fait « Ok. » Et moi, j'étais le seul au fond à faire. Hein ? Parce que je suis quand même un fieffé juriste constitutionnaliste quand même, et je me suis dit, mais attends, de quoi il parle ? C'est quoi une transmission sans filtre à l'Assemblée ? Ça n'existe pas, moi je relire la Constitution un milliard de fois, ça n'a pas de réalité, il n'y a pas de véhicule qui existe. Il n'y a que deux véhicules qui existent, les projets de loi et les propositions de loi. C'est les deux seuls trucs qui existent. Donc quand Macron a dit ça, moi, dans ma tête, je me suis dit, alors sans filtre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce qui est certain, c'est que si loi il y a, ce sera un projet de loi porté par le gouvernement d'Édouard Philippe. Donc je ne crois pas un quart de seconde qu'un gouvernement accepterait de présenter un projet de loi avec lequel il n'est pas d'accord. Ça n'a pas de sens d'imaginer ça. Donc il y aura un filtre. Le gouvernement filtrera de fait.
Il prendra les propositions qu'il souhaite des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, et certaines autres, il ne les gardera pas. C'est exactement ce qu'a fait Macron à la fin du travail de la Convention citoyenne, quand il a dit « Désolé, je ne retiendrai pas la proposition de passer de 130 à 110 km/h sur les autoroutes. » Bon, bah, il y a un filtre. Il y a bel et bien un filtre. Indépendamment de la déception qu'on a pu avoir sur le résultat de la Convention citoyenne pour le climat, gardons cette idée initiale d'Emmanuel Macron. Elle était bonne, cette idée, d'avoir une transmission sans filtre. Moi, je dis, inventons-la, cette transmission sans filtre, puisqu'elle n'existe pas dans la Constitution de la Ve République. Eh bien, imaginons un mécanisme qui permettrait à une convention citoyenne tirée au sort, à l'issue de ses travaux, de transmettre une proposition. Alors, on ne peut pas l'appeler proposition, parce que ça, c'est l'œuvre des parlementaires. C'est l'initiative parlementaire. On ne peut pas l'appeler projet. Ça, c'est l'initiative gouvernementale. Eh bien, j'en sais rien. Appelons-la suggestion de loi. Voilà. Troisième véhicule législatif qui s'appelle la suggestion de loi, qui est le fruit d'une convention citoyenne et qui est déposée à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui ensuite font leur travail. Moi, je suis méga chaud pour qu'on invente ce truc-là. La convention citoyenne élabore, propose... L'Assemblée nationale examine, dispose. Let's go. Une demande citoyenne de loi. Ouais, on peut imaginer ça une demande, ouais. M'en fous, vraiment, je suis pas à cheval sur le nom du truc, je m'en fous. Mais très bien, ça peut être une invention constitutionnelle intéressante, ancrée dans la réalité de la mutation de nos manières de fonctionner et de fabriquer les législations, une volonté d'impliquer le peuple dans la fabrication elle-même de la mécanique législative. Inventons un truc. Donc, en France, il y aura trois possibilités d'initiative des lois, les parlementaires, le gouvernement et les conventions citoyennes. Voilà. Mais qui le met à l'agenda vu que le gouvernement a la main ? Tu poses la bonne question. Tu poses la bonne question, espèce de petit vicelard, et tu as bien raison. La difficulté, c'est pas tant de déposer la suggestion de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est de trouver un créneau pour l'inscrire à l'ordre du jour. Et bah, continuons la réflexion. Hop, mettons à jour le règlement de l'Assemblée nationale et imaginons un mécanisme qui permet aux députés en commission, sur les commissions saisies au fond, de travailler sur le projet. Sur la suggestion, pardon, de loi de la Convention citoyenne. Voilà, comme ça, plus de problème d'ordre du jour. Il y a un travail obligatoire qui doit être fait. Qui décide des conventions citoyennes et des participants à ces conventions ? En l'état actuel des choses, c'est une initiative gouvernementale. Alors là aussi, on peut être imaginatif et imaginer une initiative parlementaire des conventions citoyennes. Pourquoi pas ? Mais il faudrait déjà qu'on fasse rentrer dans la Constitution la notion de convention citoyenne, que ce soit un nouvel outil parlementaire protégé par la Constitution, dont l'indépendance est garantie, etc. Et qui compose les conventions citoyennes. Jusqu'à présent, les deux conventions citoyennes qui ont existé ont été tirées au sort. Avec l'utilisation d'un filtre de tirage au sort qui permet d'avoir une assemblée représentative. En gros, il y avait des critères de représentativité de la population française qui étaient appliqués au tirage au sort. De manière à ce que les 150 citoyens tirés au sort soient les plus représentatifs possibles de la population française et de sa diversité. Interdire les politicards dans les conventions citoyennes. Ok, il n'y en a jamais eu, mais si tu veux les interdire, si tu veux. Par contre, il va falloir qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on définisse ce que c'est qu'un politicard. C'est quoi les critères ? Âge, genre, niveau social, origine ethnique ? Alors, pas origine ethnique, non. Alors, je me souviens un peu, les 8 critères de tirage au sort, c'était l'âge, le genre, y avait la zone géographique dans le territoire, il y avait le type de typologie géographique, donc les urbains, les périurbains et les ruraux, Il y avait le niveau d'études. Donc, il y avait des 100 diplômes, il y avait des bacs plus 5, il y avait tout à proportion représentative de la France. Hein. Il y avait. Qu'est-ce qu'ils avaient rajouté d'autre? La catégorie socio-professionnelle, oui, le niveau social. Alors, c'était pas le niveau social, mais c'était le niveau de revenu, je crois. Je crois que c'était le niveau de revenu, ouais. Didadoum. Il y avait la parité parfaite en termes d'hommes et de femmes. Il y avait 51% de femmes et 49% d'hommes. Comme dans la population française. Bon, voilà, enfin, tu vois, c'était ça les critères. Les critères qui étaient appliqués. Et à la fin, effectivement, la Convention citoyenne pour le climat, bah, moi j'y ai travaillé, hein. Les 150 citoyens, ils étaient assez représentatifs de la diversité de la population française, hein. Il y avait des ruraux, des urbains, des jeunes, des vieux, des diplômés, des pas diplômés, des riches, des pauvres, des hommes, des femmes et tout. C'était à moitié bien foutu en vrai. C'était très bien foutu, hein. Il y avait des trucs à redire parce que tout le monde essuyait les plâtres, mais la Convention citoyenne. Des gens des Outre-mer, ouais, absolument. C'était quoi ton rôle? Moi, j'étais partenaire de la Convention citoyenne pour le climat et je m'occupais de la diffusion des travaux sur Twitch. Donc les séances plénières de la Convention citoyenne étaient diffusées et commentées par mes soins sur Twitch et je faisais des interviews des membres de la Convention citoyenne et d'autres personnes qui étaient invitées à participer, etc. Est-ce qu'il fallait candidater? Ah non, 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 il ne fallait pas candidater, c'était un tirage au sort. Hein. C'était un tirage au sort. Je me souviens qu'ils avaient fait des contacts téléphoniques, donc c'était une campagne de phoning, etc. Et ils avaient aussi pris en compte les personnes qui n'ont pas de téléphone. Et donc ils avaient aussi fait un tirage au sort par courrier. Tu as toujours le risque d'avoir un filtre de fait, les personnes qui sont éloignées du numérique, de la téléphonie, etc. Tu risques de ne pas les avoir, donc ils avaient fait aussi un tirage au sort par courrier. Qu'est-ce qui était responsable de l'organisation de tout ça d'ailleurs? C'était un comité de pilotage qui était dirigé par, comment il s'appelle? Thierry Pêche. Je sais plus son prénom, c'est Thierry. Il y avait aussi la climatologue Laurence Toubiana. Il y avait des associations et des organisations spécialisées sur la question de la démocratie participative, qui étaient plutôt chargées par un appel d'offres d'animer le truc. Il y avait Cyril Dion qui avait un rôle de garant de l'indépendance. Voilà. Bon, il y avait un comité de pilotage, ouais. Il y avait un comité de pilotage du truc. La Convention citoyenne pour le climat, c'était une super idée, mais comme d'hab, Macron n'est pas allé au bout et ne l'a pas respectée. Dans le projet de loi climat résilience, il y a eu une partie des propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui ont été reprises, mais qui pour beaucoup faisaient partie de propositions qui étaient d'ores et déjà défendues par les députés. Hein. De toute façon, c'est pas la Convention citoyenne pour le climat, elle n'a pas inventé des trucs nouveaux hein, sur la rénovation thermique des bâtiments, sur les usages agricoles émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Enfin, c'est quand même beaucoup de choses qu'on sait déjà. Hein. Par ailleurs, je veux dire. Indépendamment d'Emmanuel Macron, retirez Emmanuel Macron de votre crâne et posons-nous la question, comment faire à l'avenir pour que les conventions citoyennes nouvelles continuent de fonctionner utilement et mieux. Si on imagine si on considère qu'il y a eu des dérives, c'est pour ça que moi je propose une transmission sans filtre à l'Assemblée nationale qui ensuite décidera. qui choisit le sujet d'une convention citoyenne. En l'état actuel des choses, les amis, les conventions citoyennes, ça n'existe pas dans la Constitution. C'est une invention pure d'initiative gouvernementale. Donc c'est le gouvernement qui décide de déclencher ou pas une convention citoyenne. Sur la première, l'initiative était surtout celle d'Emmanuel Macron, qui a beaucoup œuvré en faveur. C'est pas régi par une loi? Non. Les conventions citoyennes n'ont pas d'existence légale. Hein. C'est un décret de convocation par le Premier ministre. Est-ce qu'un citoyen a la compétence, la vision, le recul nécessaire à l'élaboration d'une loi? Intéressante question. Me permet de la retourner. Est-ce qu'un député a la compétence, la vision, le recul nécessaire à l'élaboration d'une loi? Le Parlement peut proposer une loi pour que ça puisse exister. On pourrait imaginer effectivement la création des conventions citoyennes par une loi, ouais. Pour moi, le plus utile serait quand même de réformer la Constitution. Enfin, moi, je réfléchis plutôt dans une optique de 6ème République. On change les règles, etc. Il faut quand même quelqu'un, pour les détails techniques, non, éviter les vides juridiques. Tu as raison. Eh bien, écoute, faisons exactement comme pour les projets de loi. Faisons passer la suggestion de loi de la Convention citoyenne par le filtre du Conseil d'État. C'est son boulot, il sert à ça, autant lui demander. Hein. L'avis du Conseil d'État, voilà. Penses-tu que le RIP devrait être rendu beaucoup plus accessible? Oui, le référendum d'initiative partagée qui existe aujourd'hui dans la Constitution, il est bien gentil, mais il n'est pas assez accessible. Du coup, c'est quasiment impossible de parvenir à en déclencher un. Moi, je suis pour qu'on... Mais d'ailleurs, Emmanuel Macron est pour aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est un truc qui est assez consensuel hein, aujourd'hui, le fait de dire, bon, il faut abaisser le nombre de signatures nécessaires pour déclencher un référendum d'initiative partagée. Bon, ok. Mais moi, je suis aussi pour la création d'un mécanisme de référendum d'initiative citoyenne qui permette aux citoyens eux-mêmes d'être à l'initiative de référendum. Le député a une formation politique. Tu verrais la gueule du député. On fait partie d'un groupe qui l'a et qui peut lui apporter des clés. Le citoyen lambda a besoin d'une formation. Pour preuve, tu réponds à nos questions parce qu'on ne connaît pas grand-chose au fonctionnement de nos institutions. Non, mais ça ne vous empêche pas d'avoir un avis sur nos institutions, je vous fais remarquer. Vous n'avez pas besoin d'être constitutionnaliste pour trouver que la Ve République, elle est un peu rincée. Vous n'avez pas besoin d'être économiste pour trouver que votre salaire n'est pas très élevé. Vous n'avez pas besoin d'être expert en accidentologie pour trouver que 130 km/h sur les routes, c'est pas assez, il faudrait monter à 150. Vous avez le droit d'avoir des avis, hein. Vous avez le droit d'avoir des opinions. Quand on fait de la politique, quand on vote en tant que député, mais aussi quand on vote en tant que citoyen, on ne fait pas œuvre de savoir, on fait œuvre de volonté, de souhait, de préférence. Charge à nous, si on le souhaite, de faire reposer nos préférences, nos choix et nos décisions sur des bases scientifiques, machin. On peut travailler nos opinions, ça y a pas de problème, on a le droit. On a même le droit de changer d'opinion. Mais on a le droit d'avoir une opinion. on sort des informations de notre biais cognitif. Pas sûr que ce soit juste. Mais encore une fois, je sais pas exactement ce que vous faites vous, mais quand vous mettez un bulletin dans une urne, vous ne répondez pas à un examen universitaire. Vous émettez un choix citoyen. Vous faites œuvre de volonté politique. Il n'y a pas de bons et de mauvais bulletins de vote. Il n'y a pas ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. Vous n'avez ni tort ni raison de voter pour les raisons qui sont les vôtres. Vous votez pour vos raisons. Et c'est la seule chose qu'on vous demande. C'est pour ça que la démocratie ne marche pas. Si tu attends de la démocratie qu'elle serve un but scientifique, effectivement, je te le garantis, ça n'a jamais été l'objectif du truc. Donc si tu en es déçu, je suis désolé. C'est plutôt toi qui t'es trompé sur l'objectif du bordel. La démocratie n'a jamais eu vocation à émettre des vérités. La vérité n'est pas démocratique. Comme dirait Étienne Klein, le savoir scientifique n'est pas démocratique. On se fout totalement de ce que vous pensez de la rotondité de la Terre. Le fait est qu'elle est ronde. On s'en branle de ce que vous en pensez. C'est pas important, enfin, je veux dire, on s'en fout. Le vote, l'élection, en démocratie, ça représente une volonté. La volonté générale, la volonté du peuple. On s'en fout que cette volonté, elle ait raison. Elle peut pas avoir raison ou tort. Les platistes en PLS. Oui, non, mais c'est ça. C'est... Pendant des milliers d'années, les Européens ne savaient pas que l'Amérique existait. Ils ne savaient pas qu'elle était là. Dans leur représentation du monde, la carte s'arrêtait à l'Atlantique. Pour autant, elle existait ou pas l'Amérique ? Mais évidemment qu'elle existait. C'est juste qu'ils ne savaient pas qu'elle existait, mais elle existait. Donc, c'est... Donc voilà, c'est... C'est pas une question de vérité. Vous faites pas un choix de vérité. Volonté quand même soumise à la Constitution. Oui, évidemment. Ah, mais c'est d'où l'importance, notamment, de bâtir une république sur des droits, d'abord et avant tout, sur les droits de l'homme. Que la démocratie puisse pas te les retirer. La protection des minorités, la protection de l'opposition, ça sert justement à ça, à éviter qu'il y en ait qui soient majoritaires et qui te disent « tais-toi, maintenant on a raison, toi t'as tort ». Non. Et ceux qui sont contre la Constitution, la Constitution prévoit qu'ils ont tout un tas d'outils qui leur permet d'en proposer une autre. Vous pouvez vous présenter aux élections, je vous rappelle. Hein. Vous pouvez voter, hein. Vous pouvez être élu, vous pouvez créer des partis politiques, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez discuter, vous pouvez ouvrir un blog, une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, vous avez le droit, hein. C'est... Par exemple, l'abolition de la peine de mort, c'est pas un choix scientifique, c'est un choix purement politique, une décision. Exactement. Exactement. La science n'a pas vocation à répondre à des questions qui touchent au domaine de la volonté. Qu'est-ce qui est souhaitable ? Ça, c'est pas un scientifique qui peut répondre à cette question. Qu'est-ce qui relève du désirable, du souhaitable, de l'envie, de la volonté ? Il dit, écoutez, moi je peux répondre à vos questions si vous avez des questions précises sur le fonctionnement du bordel, mais là vous me demandez un truc qui dépasse très largement ma compétence, mon positionnement, je suis pas là pour ça, j'en sais rien. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Est-ce que je dois choisir vanille ou chocolat ? Je demande l'avis des scientifiques. Non. Tu prends ce que tu préfères, ferme ta gueule. Les scientifiques peuvent conseiller, mais pas décider. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, je me souviens que c'était une réflexion assez intéressante qu'on avait au moment du Covid. Vous vous souvenez, à l'époque où le conseil scientifique était tout puissant, de fait, tout le monde se reposait sur les avis du conseil scientifique pour prendre des décisions importantes, en plus de confiner, pas confiner, etc. Et je me souviens que certains scientifiques et des philosophes des sciences étaient intervenus dans les médias pour faire remarquer que, attention à ne pas trop en demander à un conseil scientifique, hein. Un conseil scientifique, il peut t'expliquer, enfin, voilà, il peut éclairer la décision, mais il y a un moment, le politique doit aussi reprendre son rôle. Le politique, il est là pour décider, il est là pour prendre, pour faire des choix. Est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on trouve acceptable de laisser crever les vieux dans les EHPAD? Ça, c'est pas aux scientifiques de répondre à cette question. C'est horrible comme décision, hein, je vous l'accorde. Le peuple a ses raisons, le peuple n'a pas forcément raison, mais son avis est légitime. Exactement. Exactement. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je vous parle souvent de la Constitution, tout ça, 6ème République, machin, etc., en vous rappelant toujours qu'une Constitution, c'est pas un code informatique. C'est pas un truc objectif. C'est pas quelque chose qui a raison. Il n'y a pas une meilleure constitution qu'une autre par nature. Il y a des volontés, il y a des choix, il y a des envies. En 1958, il y avait un consensus national autour de la figure du général de Gaulle pour une république plus efficace, avec un gouvernement qui a plus de marge de manœuvre, avec un parlementarisme qui est rationalisé, les partis politiques mis en retrait, etc. La Ve République n'est pas une bonne ou une mauvaise constitution. C'est une constitution qui est adaptée ou pas adaptée. Aujourd'hui, en 2024, après Jésus-Christ, je pense qu'on peut dire qu'il existe en France une forme de consensus pour dire que nos institutions ne sont plus adaptées. À minima. Je ne dis pas que tout le monde est pour la Ve République, je ne dis pas que tout le monde est pour le parlementarisme, etc., tel que moi je l'imagine. Pas de problème. Je suis prêt à en débattre avec tous mes compatriotes. Voilà. La Sixième République ne sera pas meilleure ou moins bien que la Cinquième République, objectivement. Elle sera, selon vos goûts, selon vos préférences, selon vos points de vue, plus adaptée ou pas. Et puis, une constitution, ça coïncide aussi avec une culture politique. Ça correspond à une manière de faire la politique. Regardez ce dont on discute, vous et moi, depuis le mois de juin dernier. Cette difficulté à créer des coalitions gouvernementales dans une assemblée tripolarisée. C'est pas qu'un problème institutionnel, c'est aussi une question de culture politique. Les démocraties parlementaires élues au suffrage proportionnel ont généralement, pas toujours, des partis politiques qui ont une culture du compromis. C'est le pinacle, c'est nos amis allemands. Oui, le paysage politique allemand, pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, est beaucoup plus enclin à négocier, à discuter, à trouver des accords. Et Angela Merkel, qui avait beau être de droite, elle trouvait des accords avec la gauche, parce qu'elle estimait que c'était nécessaire. Et la gauche, elle avait beau être de gauche, elle se mettait quand même d'accord avec Angela Merkel, parce qu'elle trouvait que c'était quand même nécessaire. Bon, notre vie politique française aujourd'hui, elle est drivée par l'élection présidentielle, elle pense toujours en hégémonie, et on continue à penser en hégémonie, parce que c'est comme ça qu'on a été conçu par la Constitution de la Ve République. Donc, voilà. Et quelqu'un tout à l'heure dans le chat disait, il faut une culture plus proche du compromis. Bah, j'ai beau être d'accord avec toi, je ne sais pas comment on peut faire ça. Je ne vais pas tordre le bras des partis politiques en leur disant, maintenant ça suffit, il faut faire des compromis. Non, c'est une question de goût, c'est une question de volonté personnelle, de est-ce qu'on est prêt à négocier ou pas? En gros, on n'a pas la même méta. Ouais, c'est ça. On n'a pas la même méta, on n'a pas la même, on n'a pas le même gameplay. Est-ce qu'un changement constitutionnel doit être précédé ou suivi du changement de culture politique? Bah en fait, les deux, mon général. Les deux, mon général, parce que ce que je suis en train de vous dire pourrait vous paraître un peu défaitiste en disant qu'on ne pourra jamais changer, finalement. On a la vie politique qu'on a, elle ne changera jamais, etc. Non, ce n'est pas vrai. Les institutions ont des conséquences en termes de culture politique. Par exemple, le scrutin majoritaire a tendance à concentrer les partis politiques dans des partis forts et hégémoniques. Le scrutin majoritaire a fabriqué le Parti socialiste, l'UMP, les Républicains, etc., les grands partis hégémoniques, machin, etc., qui ont volé en éclats à partir de la fin des années 2010. Ça, on y reviendra. Mais pendant des décennies, ça a fonctionné comme ça. Le scrutin proportionnel a plutôt tendance à favoriser le morcellement politique et donc la culture du compromis. Mais une fois que j'ai dit ça, si vous faites un scrutin proportionnel et que les Français décident de voter à 50%, non, moins que ça, à 40% pour un parti qui refuse tout compromis, bah, vous n'avez pas avancé, en fait. Et également, le point important des petits partis qui font les majos. Je suis d'accord avec toi, Denis. Je suis d'accord avec toi, et c'est d'ailleurs ce que le général de Gaulle détestait. Quand il a écrit la Ve République, le général de Gaulle, il voulait sortir de cette logique. Il appelait ça l'appareil des partis. Il détestait ça. Le mot parti dans la bouche du général de Gaulle, c'était à gerber. Enfin, vraiment, les partis, ce sont des fractions, ce sont des factieux, ce sont des petits groupes que chacun monnaie un petit peu sa petite existence, etc. Pour lui, il y avait l'intérêt supérieur de la France, qui était complètement objectif, qui n'était absolument pas idéologique. Il détestait les idéologies. Le général de Gaulle, lui, il n'avait pas d'idéologie, lui. Lui, il n'avait que l'intérêt de la France. Bon. Et effectivement, on se retrouve aujourd'hui dans une Assemblée nationale, les amis, avec 11 groupes. 11 groupes. Dont des groupes qui ont 30 députés. C'est pas beaucoup, 30 députés. Bah ouais, mais ça peut faire ou défaire une coalition. On n'est pas loin du retour à la quatrième, hein. Voilà quoi. C'était si mal la quatrième? Je sais pas. Tu veux que je te dise, c'est une question de point de vue. La quatrième. Enfin. Toute ressemblance avec une situation d'actualité ne saurait être que fortuite. Il y avait la valse des gouvernements. Les gouvernements duraient quelques mois seulement. Il y avait des volte-face de groupes minoritaires qui décidaient de changer d'alliance, etc. La Quatrième République était jugée inefficace, bordélique, incapable de gérer la guerre d'Algérie. Voilà, enfin c'est... C'est le point de vue qu'avait une partie des gens à l'époque, porté notamment par le général de Gaulle. La 4ème République a reconstruit la France après la guerre. Derrière l'instabilité, le bilan est excellent. Alors, je crains que tu sois en train d'attribuer à la 4ème République les mérites du plan Marshall. On va pas se mentir, les gars. La reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale, c'est pas tant nos députés que les milliards de dollars que le gouvernement américain a injectés dans l'Europe occidentale pour la protéger du communisme. Et sinon, t'as eu Mio dans le nouveau booster? Mais non, je l'ai toujours pas, ça me rend fou. Vraiment, mes boosters, ils sont pétés. Fatigue. J'ai pas de chance de toute façon. Ma copine, elle a tout, moi j'ai rien. Vas-y. Introduire la proportionnelle risque de stabiliser ou de déstabiliser la situation actuelle. Ça dépend beaucoup du type de proportionnelle qu'on choisit. Si on la fait en un tour, en deux tours, si on la fait intégrale ou par département ou par région. Mais la proportionnelle à un tour, comme on l'a eu par exemple aux européennes, bah vous avez vu la quantité de listes qu'il y avait aux européennes. Hein. Voilà. La proportionnelle, c'est la fin du NFP. Hein. Ça sert à rien de faire un accord avant l'élection quand on peut tout simplement proposer ses candidats à l'élection et faire un accord après en fonction de l'état des rapports de force. Ça va dépendre également des volontés des partis de sortir des habitudes. Ouais. Oui, bien sûr. Et la victoire de LFI. S'il y a une proportionnelle, tu crois que LFI va gagner ? Enfin, je veux dire, on parle bien du parti qui a fait 10% à la dernière proportionnelle. Je veux bien, hein, je... C'est la foi qui fait courir, mais entre 10 et 20%. Oui, mais tous mes amis votent LFI. Ah, dans ce cas, effectivement. Les Européennes étaient autrefois des proportionnelles par région. Absolument. Absolument. C'est assez récent, hein, d'ailleurs, qu'on soit passé à une proportionnelle intégrale pour les élections européennes. Et là, j'ai entendu... Qui j'ai entendu dire ça ? Quelqu'un qui est proche de la Macronie me dire que le projet actuellement en cours de réflexion, c'est une proportionnelle par région. Pas par département, mais par région. À deux tours. MDR, tu forces en prenant les commentaires les plus nuls. Ben non, regarde, j'ai pris le tien. Ah, Tondelier a dit ça également parce que je crois que c'est dans le projet des écolos. Je crois que c'est dans le projet des écolos. Alors, je me suis trompé. Alors, non, j'ai confondu avec ce que disait Marine Tondelier sur Brexit. C'est Mélanie Vogel qui a proposé ça dans une tribune qu'on a lue en live. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Proportionnel par région. Projet des écolos. Marine Le Pen souhaite, semble-t-il, une proportionnelle intégrale avec prime majoritaire, parce que pourquoi se priver ? Comment ça marche une proportionnelle à deux tours ? Bah, aux européennes, par exemple, on a une proportionnelle à deux tours, c'est-à-dire que les listes qui ont obtenu de mémoire 12,5% des voix peuvent se maintenir au second tour. Et les listes qui ont obtenu plus de 5% des voix peuvent fusionner. Ouais, c'est ça les régionales. Par ailleurs, il y a une prime majoritaire aux régionales qui fait que la liste qui arrive en tête au second tour remporte automatiquement 25% des sièges pour commencer. De base. T'as dit européenne, tu voulais dire sans doute dire régionale. Ah, c'est possible. C'est quoi les régionales ? C'est les élections régionales. Les élections qui permettent de composer les conseils régionaux. Ça veut dire quoi la prime majoritaire ? Ben, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la liste arrivée en tête, la liste majoritaire en valeur absolue, en valeur relative, hein, évidemment, la liste arrivée en tête au second tour obtient automatiquement 25% des sièges et le reste des sièges est réparti à la proportionnelle. Ça sert à garantir une stabilité des majorités dans les conseils régionaux. Justement pour éviter les situations qu'on a actuellement à l'Assemblée nationale. Où on n'a pas de Premier ministre, pas de majorité, c'est le bordel, etc. Dans les conseils régionaux, il y a un forçage qui est volontaire pour garantir une stabilité. Le Pen est pour, étant donné qu'elle aurait cette prime. Oui, alors la raison pour laquelle Marine Le Pen est favorable à une prime majoritaire, bah, c'est parce que le parti majoritaire aujourd'hui en France, c'est le Rassemblement National, en majorité relative. Marine Le Pen, elle se mouille pas. Elle dit, vu que j'ai toutes les chances d'arriver en tête, je réclame une prime. Voilà. Donc en fait, la proportionnelle est que sur 75% des sièges, elle est à 25% pour la majorité. Ouais, la majorité, elle a 25% plus son score à la proportionnelle. Hein. C'est les sièges restants qu'on répartit à la proportionnelle. Pour rappel, le NFP n'est pas un parti. Ah oui, tu as raison de le rappeler. On rappelle utilement que le Nouveau Front Populaire n'est pas un parti et que le Nouveau Front Populaire n'est qu'un accord électoral qui n'existe que parce qu'on a un scrutin majoritaire par circonscription. La preuve, il n'y avait pas de Nouveau Front Populaire aux européennes. Hein. Les Insoumis ont essayé de réclamer, mais ils n'ont pas réussi. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que si on fait une proportionnelle à deux tours, les partis du Nouveau Front Populaire se présentent séparément les uns des autres, ils font le score qu'ils font au second tour, au premier tour, pardon, puis fusionnent au second tour. Une proportionnelle à deux tours régionales, ça donnerait quoi? Bah, ce que je viens de dire, c'est-à-dire un modèle similaire à ce qu'on a aux élections régionales, c'est-à-dire qu'on fait dans chaque région, les partis politiques déposent des listes autant qu'ils veulent. Par contre, au second tour, ils ne peuvent se maintenir que si leur liste obtient 12,5% des voix ou des inscrits, ça c'est à définir. Et en plus, fusion de listes possible pour les listes qui ont obtenu plus de 5%. Donc on fait un deuxième tour avec les listes qui restent. Et à l'issue du second tour, on a la proportion des députés pris sur les listes qui partent à Paris siéger à l'Assemblée. Voilà. S'il y a fusion, ça se passe comment pour l'attribution des sièges? Ah, les listes se démerdent. Les listes se démerdent pour négocier. Les listes discutent entre elles, combien on rajoute, machin, tac tac. Ça bloque quand même les petits partis. Oui. Oui. Pour exister politiquement, il faut faire un score minimum de 5% pour pouvoir fusionner. Et ça te garantit même pas d'être élu. Alors après, il y a une autre possibilité, c'est de faire un mélange des deux. Y a une possibilité, c'est de faire une Assemblée nationale composée en partie de députés élus au scrutin majoritaire et en partie issue d'un scrutin proportionnel. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Bon, il faudra, de toutes les manières, hein, si on fait un truc comme Mélanie Vogel le propose, c'est-à-dire un scrutin proportionnel avec liste régionale, il va quand même falloir qu'on fasse un statut spécial pour les départements et les régions d'outre-mer. Alors les régions d'outre-mer, c'est pas difficile, La Réunion, bon bah voilà, ils élisent comme tout le monde, Pour les autres, il va falloir qu'on mette une exception en disant qu'on va quand même garder des députés martiniquais, on va quand même garder des députés guyanais. Voilà. Est-ce que tu trouves qu'on a trop de députés et de sénateurs en France? Et si oui, comment on pourrait les être amenés à baisser leur nombre? Alors, moi, j'ai jamais trouvé qu'il y avait trop de députés ou de sénateurs. J'ai toujours considéré que le nombre n'était pas important. On s'en fout. Tu peux avoir une assemblée. L'Union soviétique avait une assemblée à je sais pas combien de milliers de personnes. Voilà, c'est juste qu'il servait à rien, le Parlement. Bon, on s'en fout. Voilà, tu peux avoir un gouvernement, tu peux avoir un Parlement ultra efficace avec 50 personnes dedans et avoir un parlement pléthorique avec aucune mission, rien d'intéressant. Donc c'est vraiment, moi, le nombre, j'en ai jamais rien eu à foutre. En revanche, il y a des gens qui trouvent qu'il y en a trop. Et il y avait eu un deal qui avait été trouvé par Emmanuel Macron en 2018, dans le cadre de sa réforme constitutionnelle, qui était une réduction du nombre de députés. Je crois qu'on serait passé de 577 à 450. Avec la garantie d'un député par département minimum. Ça, c'est pour les départements ruraux qui craignent de ne plus avoir de députés. Et le Sénat, qui serait descendu à 300, je crois, ou à 250. Il y avait un deal qui avait été trouvé avec Gérard Larcher. Quel ratio député-sénateur par million d'habitants pour les autres pays européens? D'une part, j'en sais rien, et d'autre part, c'est pas exactement en ces termes-là que ça se mesure. On peut pas comparer une assemblée à une autre. Ça dépend des constitutions, ça dépend de ce qu'elles ont comme pouvoir, comme capacité d'initiative, d'action, etc. C'est pas. Et pour le Sénat, quelle réforme? Moi, je ne suis pas pour la suppression du Sénat. Je suis pour que le Sénat reste une force d'appoint et qu'il puisse pas bloquer, ça c'est sûr. Pas envie qu'on revienne à un truc différent. Par contre, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus rééquilibré en termes de représentativité de la diversité des collectivités locales. Enfin, davantage du nombre d'habitants par collectivité locale. J'aime beaucoup les petits villages ruraux. Je trouve qu'ils sont surreprésentés. Vu la topographie du pays dans lequel on vit, où il y a une surreprésentation des populations qui habitent en ville ou en territoire périurbain. Un peu plus de sénateurs de banlieue, un peu moins de sénateurs de territoires ruraux. Je sais qu'en disant ça, je vais m'attirer les foudres de tout le monde, disant que je suis un salaud de Parisien qui pense qu'à sa gueule et qui croit que la France entière est une ville et que je n'ai aucun respect pour les territoires, etc., etc., etc. Si vous voulez. On peut s'engueuler là-dessus, ça me va. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Pas assez de grands électeurs dans les grandes villes. Ouais, je suis d'accord. Non, non, mais je suis d'accord, hein. Je suis désolé, les banlieues sont sous-représentées au Sénat. De toute façon, la France a une haine irrationnelle de Paris. Oui, non, non, mais oui. Plus Paris, c'est tellement grand qu'il y a des réalités locales à Paris qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Moi, j'habite dans un quartier qui a une topographie, une sociologie et des problématiques qui rapprochent beaucoup plus mon quartier de ce qu'on appelle les banlieues que de ce qu'on pense quand on pense à Paris. Quand je m'occupais des enfants, enfin des affaires scolaires dans mon arrondissement, le 20e en l'occurrence, qui est un arrondissement populaire à l'est de Paris, quand je m'occupais des affaires scolaires, j'avais des maîtresses de classe et des profs de collège qui faisait des voyages scolaires pour aller voir la Tour Eiffel. Non, vraiment, pour les enfants d'ici, pour les gamins de mon quartier, la Tour Eiffel, c'est pas chez eux. C'est, ça n'appartient pas à leur ville. C'est un truc, ils l'ont vu sur Internet, ils l'ont vu à la télé, etc. Mais pour un collégien, c'est vachement loin, la Tour Eiffel. C'est inaccessible. Donc voilà, donc ils faisaient des voyages, ils allaient visiter la Tour Eiffel, ils allaient au musée du Louvre, ils faisaient des trucs dans les théâtres, les opéras, machin, etc. Mais pour les gamins, c'était partir loin pour eux, dans leur vie, dans leur univers et tout. Donc toujours regarder la ville avec des yeux d'enfant, vous verrez, c'est assez spectaculaire. Et par ailleurs, oui, Paris, c'est 2 millions d'habitants, Paris, c'est 20 arrondissements. Et comme je vous le disais, il y a des coins de Paris dans lesquels le taux de pauvreté est extrêmement bas et est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche de certains quartiers de Seine-Saint-Denis que du reste de Paris. Je vous rappelle qu'à Paris, il y a une épidémie de crack. Hein. Il y a des quartiers, la colline du crack à Paris, c'est pas marrant. Hein. La situation, elle est d'ordre humanitaire et sanitaire. Le taux de pauvreté est élevé. Oui, je me suis trompé, c'est le taux de pauvreté. Excusez-moi, le taux de pauvreté est élevé. La richesse est basse. Je me suis trompé, ouais. Donc bref, c'est pas pour défendre Paris, hein, juste pour dire que déjà, Paris, ça n'existe pas vraiment. Voilà, en termes de sociologie, de population, de réalité vécue, de niveau de vie, etc., Paris, c'est pas homogène du tout. Tu rajoutes à ça la mégalopole parisienne avec ses 12 millions d'habitants, autant vous dire qu'on ne vit pas dans le même monde. Les uns les autres, T'as fait ton voyage scolaire quand t'étais à l'école primaire? Non. Non, alors moi j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Courbevoie, je sais pas si vous connaissez, qui est au nord du quartier de la Défense à Paris, dans les Hauts-de-Seine, dans le département des Hauts-de-Seine, et Courbevoie était probablement une des villes les plus riches du monde. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque il existait un truc qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle la taxe professionnelle. Et qui faisait que Courbevoie touchait des impôts locaux de la part des entreprises qui étaient sur son territoire, comme toutes les villes de France. Ok ? Sauf que le territoire de Courbevoie, il y a une partie qui s'appelle la Défense. Et la Défense, si vous ne connaissez pas, c'est un quartier d'affaires. Donc, tu as des fucking tours avec des fucking traders dedans qui gagnent un fric monstrueux et qui ont l'obligation de payer une taxe professionnelle à la petite ville de Courbevoie. Taxe professionnelle qui ne représente pas grand-chose dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais qui, pour la ville de Courbevoie, représente un fric démesuré. Le quartier de la Défense est partagé entre Courbevoie, Nanterre et Puteaux, exactement. Et donc, à l'école publique de Courbevoie, on avait des classes de neige tous les ans, de 3 semaines. Est-ce que c'est bon pour vous? C'était avant les lois Vigipirate, hein, donc c'était probablement plus facile de faire des voyages scolaires à l'époque. Tu payais la classe de neige? Faudrait que je demande à mes parents. En vrai, faudrait que je demande à mes parents si à l'époque, ils ont le souvenir d'avoir participé au financement du voyage. T'aurais vu la gueule de la taxe professionnelle. Tu comprends que la mairie avait les moyens de claquer des vacances, mais... Pour tous les pitis. Pour tous les pitines enfants. Donc voilà, je faisais partie des pitines enfants qui faisaient du chasse-neige comme ça à la queue leu-leu et que c'était payé par les entreprises de la défense. Et c'est là que tu vois, et pardon par avance parce que je vais dire des trucs de gauche, mais l'injustice de cette merde qui fait que des quartiers comme Courbevoie et Puteaux, qui sont des villes essentiellement composées de logements privés, d'accession à la propriété sur plan, qui n'étaient pas les gens les plus pauvres. Hein. Voilà, mes parents, ils sont cadres, tous les deux. Et on se retrouvait, nous, les enfants de cadres, à avoir à l'école publique des voyages au ski payés par l'argent public, etc. Et au même moment, à quelques stations de RER de là, en Seine-Saint-Denis, où tu as des quartiers à 70% de logement social, avec un taux de pauvreté stratosphérique, et avec des collectivités locales qui n'ont même pas les moyens de réparer le plafond du préau de l'école qui fuit. Et c'est pour ça qu'il faut créer, c'est pour ça que j'ai toujours été pour le Grand Paris, j'ai toujours été pour la métropole du Grand Paris, parce que et à un moment donné, il faut assumer de prendre l'argent aux riches pour le filer aux pauvres. Voilà. Donc, grand projet du Parti Socialiste à l'époque. Hein. Voter la loi sur le Grand Paris, créer la métropole. Sauf qu'à l'issue des régionales des municipales de 2014, c'est la droite qui s'est retrouvée majoritaire à la métropole. La droite qui s'est battue pendant des années contre l'idée même du projet. L'idée même du projet. Il est hors de question que l'argent des habitants des Hauts-de-Seine finance les paniers percés des mairies communistes de Seine-Saint-Denis. Et bah paf, moment de l'élection, il se retrouve à la tête du truc. bon, bah voilà. C'est beau la politique. Ouais, ouais, c'est ironique. En vrai, c'est un peu rigolo. Vraiment, le plot twist, il est... J'avais un copain qui était collaborateur de cabinet à l'époque. Il me dit, au moment des résultats, il m'a fait putain, on a fait tout ça pour ça. Alors vraiment, ça fait des années qu'on travaille sur ce projet. On a réussi à arracher un truc. Tout ça pour que la droite le récupère. Bon. Eh ben, on va reboire une bière, hein. C'est moi qui rince. Et les communistes qui s'achètent les voix via le logement social derrière. Ah, grande théorie, ça, grande théorie. Est-ce que vous savez pourquoi les communistes, ils font du logement social dans les villes communistes ? Vous croyez que c'est parce qu'ils aiment les pauvres et qu'ils veulent... Non, pas du tout. C'est du clientélisme pur. C'est uniquement pour se fabriquer des électeurs. Comme ça, ils se garantissent de gagner les élections, puisqu'ils remplissent leurs logements sociaux avec des pauvres. Et les pauvres, ils votent plutôt communistes qu'à droite. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Très rigolo comme analyse. Et on peut le renverser, exactement dans l'autre sens. Pourquoi est-ce que Patrick Balkany a reconstruit littéralement le Valois en faisant du logement privé, de l'accession à la propriété pour les familles aisées ? Pour les remplir avec des riches, pour se garantir les élections. Voilà. C'est pété, hein, comme... comme analyse. C'est toujours le camp d'en face qui fait du clientélisme. N'oubliez jamais ça. Les gens pour qui je vote, moi, ils croient en ce qu'ils disent. Le camp d'en face, il croit pas un mot de ce qu'il raconte. C'est juste du clientélisme. C'est de la démagogie même. Voilà. La CVAE profite toujours aux communes. Oui, oui, oui. Alors, il y a aussi, pour ceux qui ne savent pas, il y a aussi des règles de péréquation. Alors, ce qu'on appelle la péréquation... c'est des modes de calcul dans l'attribution des dotations aux collectivités locales qui permettent de rééquilibrer un peu la balance entre les zones riches et les zones pauvres. Donc, je vous rassure, c'est pas complètement un jeu à somme nulle. Les communes, les zones les plus pauvres sont censées toucher un peu plus d'argent que les zones les plus riches. Bon, il n'en demeure pas moins que les zones les plus pauvres de France ont toujours moins d'argent que les autres, moins de services publics, moins de bâtiments qui tiennent debout, etc. Il y a quand même certaines idéologies plus sincères sur l'aide aux pauvres que d'autres. Mais c'est pas plus ou moins sincère, hein. Il y a des gens qui sont absolument convaincus que c'est pas aider les pauvres que de leur donner de l'argent. Je serais jamais d'accord avec ça. Mais il y a des gens qui le croient sincèrement. Il y a trop d'assistanat en France, il y a trop d'allocations, les gens sont payés à rien foutre, ça les aide pas à remettre le pied dans l'emploi, etc. Les gens qui disent ça, ils sont pas insincères. Ils croient ce qu'ils disent, hein. On en revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur savoir et volonté. Bon, bah, on n'a pas la même volonté. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne vois pas les choses de la même manière. Ils veulent leur donner quoi, du coup? Eh bah, bien, de la formation et du travail. Voilà. Des bourges. Attention aussi avec cette grille de lecture. Les pauvres votent à gauche, les riches votent à droite. Je regarde un peu les sociologies du vote, c'est pas toujours exact. Nicolas Sarkozy en 2007, il a fait une percée dans le vote ouvrier avec cette logique-là. Hein. Travailler plus pour gagner plus, la valeur travail. Les gens payés à rien foutre, ça va 5 minutes. Ceux qui ont vraiment de la valeur, c'est ceux qui se lèvent tôt. Bon, bah, voilà, ça a plu à des travailleurs pauvres qui se sont dit, mais putain, il a raison. Non, mais il y a un moment, ça va, hein, c'est bon. Les gens qui ont vécu durement sont souvent plus durs. Ouais, c'est vrai. Non, mais le discours de chauffeur de taxi sur les feignants, etc., il est aussi prononcé par des artisans, des ouvriers, des agriculteurs, etc. C'est pas... C'est un poil naïf de juste résumer à dire qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Ah non, c'est pas une question de naïveté ou pas, c'est que Nicolas Sarkozy, à l'époque, proposait la défiscalisation des heures supplémentaires. C'était une promesse de campagne de Nicolas Sarkozy, que d'ailleurs il a réalisée hein, dans son budget. Il a dit aux Français, si vous acceptez de travailler plus longtemps que 35 heures, vous gagnez plus d'argent. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais si vous acceptez... Après, quand tu vois certains régimes spéciaux comme l'intermittence du spectacle qui coûte 1 milliard aux contribuables, je peux comprendre le boulanger qui vrille le matin. Je comprends. Non, mais je vais pas te donner le contre-argument de gauche, etc. Oui, évidemment, mais c'est pas en faisant des bastons de pauvres qu'on va régler le problème de la pauvreté. Enfin, j'ai vraiment, hein, c'est regarder dans l'assiette du voisin en se disant ah, ils sont mieux à côté. C'est comme les régimes spéciaux de retraite. À chaque fois, c'est le même débat. Oh là là, les ouvriers, vous avez vu les cheminots? Vous avez vu leur régime de retraite? C'est pas un peu dégueulasse? Vous avez vu ce qu'ils ont et que vous avez pas? Frère, enfin bon, on peut ne jamais être d'accord là-dessus, mais c'est... Euh... Après, on paye pas le câble en XLR. On paye pas en câble XLR, oui, ça c'est vrai. Le nivellement par le bas. Ouais, pareil, le nivellement par le bas. Oh! Grand truc des conservateurs. Grand truc des conservateurs sur notre société s'appauvrit intellectuellement. On est en déclin. On régresse. Avant, les gens étaient plus intelligents, étaient meilleurs, étaient d'ailleurs l'air sentait plus bon. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les hirondelles revenaient au printemps. Les champs fleurissaient. Plus beau aussi, ouais. Bah c'est réel. De quoi qu'avant c'était mieux? Ah si tu veux, si tu veux, si tu veux. Ah non, non, mais t'as le droit, hein. Pas vous empêcher de considérer que hier était mieux qu'aujourd'hui, hein. Avant, les femmes pouvaient pas parler. Ouais, alors c'est marrant parce que cette phrase, elle peut avoir deux sens. Soit tu déplores en disant, putain, vous vous souvenez, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit à la parole, quand même, c'est particulier. Soit au contraire, tu dis, eh, c'était mieux, eh, vous vous souvenez, hein, l'époque où on mettait des mains au cul aux femmes dans la rue et puis elles nous faisaient un sourire gêné. Zemmour, il est à deux doigts de le dire. Hein. Zemmour, il est à deux doigts de le dire. Hein. Eh, quand même, c'était le bon temps. Hein. Elles connaissaient leur place. Non mais vous vous rendez compte, aujourd'hui on se prend des gifles. Quand on siffle. Non mais oh. Eh, c'est la décadence, hein. Eh, c'était mieux avant. On peut plus rien dire. Hein. Ah, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire, c'est le wokistan. C'est le wokistan. Dès qu'on dit des trucs racistes, les gens racisés ils sont pas contents. Dès qu'on dit des trucs misogynes, les femmes, elles sont pas contentes. On peut plus rien dire. Nous, les hommes blancs, alors qu'avant, on pouvait dire tout ce qu'on voulait, parce qu'on était vraiment les tauliers, aujourd'hui, on ne l'est plus. Ton pronostic sur Bayrou, il va durer combien de temps, à ton avis? Ah bah revenons sur des sujets sérieux. T'as raison. François Bayrou va durer combien de temps? Putain, j'en sais rien. Je n'arrive pas à imaginer qu'il réussisse à former un gouvernement qui fasse voter la moindre loi. Franchement, discours de politique générale le 14 janvier, en direct sur la chaîne Twitch de Jean Mascier. Dépôt d'une motion de censure. Examiné le vendredi 17. Vote de la motion de censure, merci, au revoir. Est-ce qu'un gouvernement a l'obligation de faire des lois? C'est pas une obligation d'ordre réglementaire légal, c'est une obligation d'ordre politique. Gouverner un pays, c'est changer la législation du pays, changer les choses, avancer. Dans une direction ou dans une autre, hein. Je ne dis pas que je suis d'accord, etc. C'est faire quelque chose. Je pense qu'il va échouer à former un gouvernement et précipiter la chute de Macron. Est-ce que c'est crédible à ton avis? Je ne pense pas qu'il va échouer à former un gouvernement. Non, non, je pense qu'il va former un gouvernement, qu'il va en revanche échouer à obtenir la confiance et que dès le premier 49-3 utilisé, il y a une censure qui est votée, quoi. Est-ce que ça va précipiter la chute de Macron? Ça, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, hein, c'est une question de point de vue institutionnel, c'est le président de la République qui décide de ça. Dans son allocution à la télévision après la censure de Michel Barnier, Emmanuel Macron a dit « Je ne démissionnerai pas ».« Je ne démissionnerai pas » est une phrase célèbre, historique, C'est un clin d'œil qu'a fait Emmanuel Macron à Charles de Gaulle, qui a prononcé cette phrase en 1968, un an avant sa démission de la présidence de la République. Donc, ça revient à dire ce que j'ai toujours dit, c'est pas parce que vous dites que vous démissionnerez pas que vous ne démissionnerez pas. Ça, c'est les circonstances qui s'en chargeront. Est-ce que les circonstances vous poussaient Emmanuel Macron à démissionner ? Non, je pense qu'il aura toujours l'option de nommer le nouveau Front Populaire au gouvernement. J'ai lu sur les réseaux qu'il n'y avait pas besoin de 49.3 pour déposer une motion de censure. Est-ce que c'est vrai ? Absolument, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'un 49.3 pour déposer une motion de censure. Une motion de censure peut être déposée à n'importe quel moment par 58 députés de l'Assemblée nationale. Voilà. Est-ce que tu penses que sa volonté de cumuler la mission de Premier ministre et son mandat de maire le met déjà dans le pétrin ? Du point de vue de l'opinion publique, il semblerait que oui. Visiblement, les réactions depuis sa décision de présider le conseil municipal de Pau sont assez négatives. Hein. Voilà, il est quand même beaucoup critiqué, François Bayrou, pour ce move. Alors, je j'ai pas envie de parler pour les Français, hein, c'est comme d'habitude, je les connais pas. Si vous les croisez, vous les embrasserez de ma part. J'ai l'impression que l'opinion publique est effectivement pas méga chaude pour ce move, qu'elle ne comprend pas compte tenu de la situation, quoi. Est-ce qu'il y a une raison arithmétique à ce seuil de 58 députés ? Oui, c'est juste un dixième des députés. C'est comme ça que c'est écrit dans le règlement de l'Assemblée. Ou c'est dans la Constitution, d'ailleurs, je sais plus, que c'est écrit. Article 49. Je sais pas. Je sais plus où c'est écrit. Sachant qu'il y a une possibilité de nommer le Premier ministre pour le NFP, est-ce que la droite ne va pas éviter de voter une motion de censure pour éviter un tel scénario ? Ou alors qu'il y ait une motion de censure pour un gouvernement NFP qui passe ? Dans le deuxième cas, il n'y aurait littéralement aucune solution. Bah, ce que tu dis est intéressant, parce qu'effectivement, c'est la question du risque. La dernière personne dont on parlait en disant ça, c'était Marine Le Pen. Pourquoi Marine Le Pen risquerait de faire tomber le gouvernement de Michel Barnier ? Si le résultat de la chute de Michel Barnier, c'est la nomination d'un Premier ministre de gauche. Marine Le Pen, selon sa propre logique exprimée en septembre dernier, n'a-t-elle pas plutôt intérêt à garder Michel Barnier sur le coude ? Michel Barnier sur lequel elle a quand même un pouvoir de pression, plutôt que de se retrouver comme une conne dans l'opposition à un gouvernement de gauche. Bon, et ben la morale de l'histoire, c'est que Marine Le Pen, elle a estimé que le risque en vaut la chandelle, le jeu en vaut la chandelle, elle a censuré Barnier. Admettons qu'on continue à nommer des premiers ministres et qu'ils continuent à se faire virer en boucle, il se passe quoi ? Rien. Rien, on est dans une crise politique. On est dans une crise politique, comme d'autres pays l'ont connue avant nous, et on peut se retrouver dans une situation... au bout du bout, ce qu'on risque d'avoir, c'est ce qu'on appelle un gouvernement technique. Un gouvernement technique, c'est un gouvernement qui est dirigé, c'est un gouvernement qui n'a aucun pouvoir. Hein. C'est un gouvernement qui est... franchement, histoire de dire, quoi... et qui expédie les affaires courantes avec des hauts fonctionnaires, tu vois. François Bayrou n'a pas l'air pressé de nommer un gouvernement. Que se passe-t-il si le budget n'est pas voté avant le 31-12 ? Alors, si ça peut te rassurer, il y a eu une loi spéciale qui a été votée. qui permet justement de passer la période de Noël. Donc rassurez-vous, il y a un budget qui est voté, qui est un budget minimum, hein, c'est une reconduction de crédit, qui est voté et qui va permettre de passer les fêtes. Ce qui est certain, c'est que François Bayrou, s'il veut gouverner ce pays, s'il veut faire quelque chose de ce pays, va devoir déposer un projet de loi de finances rectificatif au début de l'année prochaine. Donc en janvier-février, on aura normalement un budget rectificatif de François Bayrou. Pourquoi la gauche n'a pas voté la loi spéciale? Si, si, elle a voté la loi spéciale. La loi spéciale a été adoptée à l'unanimité. Pas PLFR. Bah si, Denis. Ah bah non, PLF. Puisqu'il n'y a pas de... Oui, non, t'as raison. Puisqu'il n'y a pas de loi de finances initiale, ce ne sera pas une loi de finances rectificative. Ah, t'as raison, Denis. Est-ce qu'un PLF peut passer 149.3? Genre, est-ce que c'est déjà arrivé? Qu'un projet de loi de finances passe 149.3? C'est arrivé pendant 70 ans. Tous les budgets sont votés. C'est que depuis Elisabeth Borne qu'on a des 49.3 sur le budget. Parce qu'elle n'a pas de majorité absolue, etc. etc. Non, c'est marrant parce que ça paraît si exotique que ça. Maintenant qu'on est dans la merde, là, enfin, maintenant qu'on est dans une situation un peu bizarre avec une assemblée tripolarisée, etc., on a juste perdu le goût de ce que c'était il y a encore 10 ans, je vous rappelle. Hein, il y a encore 10 ans, il y avait que deux partis en France qui comptaient vraiment. C'était le PS et l'UMP. Ils s'échangeaient le pouvoir tous les 5 ans et ils avaient une majorité absolue. Ça se passait assez bien, hein. Je veux dire, en termes de budget, tout ça, ouais, non, il y avait un vote majoritaire, tout le monde rentrait à Noël pour les fêtes, etc. Ouais. Qu'en est-il de l'article 16 de la Constitution ? Que faut-il à Macron ? L'article 16 de la Constitution, mes chers amis, c'est un truc qui excite énormément les gens sur Internet. C'est un peu le fantôme comme ça qu'on utilise pour faire peur aux enfants. Attention, ça plane, ça peut peut-être tomber, etc. Machin. L'article 16 de la Constitution est un article qui prévoit ce qu'on appelle les pouvoirs exceptionnels pour le président de la République. L'article 16 permet au président de la République de prendre effectivement des pouvoirs exceptionnels et de prendre à peu près toutes les décisions qu'il veut prendre. Mais cet article 16 ne peut être déclenché que dans un cas précis, ne peuvent être prises que des décisions précises et avec un but précis, le tout sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Qui n'est pas un contrôle incroyable, mais qui a au moins le mérite d'être là. L'article 16 ne peut être utilisé que dans un contexte dans lequel on estime que les intérêts vitaux de la nation, que l'intégrité de son territoire ou le respect de ses engagements internationaux sont mis en danger de manière grave et immédiate. Grosso merdo, il faut que les nazis soient aux portes de Paris. on est, enfin voilà, faut que vous compreniez. La seule fois de l'histoire que l'article 16 a été utilisé, je vous rappelle quand même, qu'il y a quatre généraux de l'armée française qui se sont rebellés contre Paris et ils étaient armés de tanks, de véhicules blindés, d'hélicoptères et d'avions. C'est ce niveau-là de crise, l'article 16. Par ailleurs, en plus de ce niveau de crise, machin, c'était quand ? C'était en 1961. C'était la crise des généraux, tu peux les regarder, pendant la guerre d'Algérie. Ça s'est passé en Algérie. Par ailleurs, pour que l'article 16 soit utilisé, il y a une autre condition, c'est qu'il faut que les pouvoirs publics constitutionnels soient empêchés de fonctionner de manière normalement. Donc il faut que vous imaginiez une situation dans laquelle Les députés ne peuvent pas se rendre à Paris. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État sont menacés par un, je sais pas, un putsch avec des... Encore une fois, enfin, c'est pour ça que je vous dis souvent, quand vous pensez à article 16, pensez armes à feu. Voilà, dites-vous qu'il y a un moment dans l'équation, il y a un moment, il y a des flingues, quoi, parce que faut arriver à une situation de crise telle qu'il y a un danger vital avec, avec des mecs avec des flingues, avec des fusils, avec des blindés, etc. Pendant le putsch des généraux, l'Assemblée nationale ne pouvait pas se rassembler. Si, mais les pouvoirs civils en Algérie ne pouvaient pas se rassembler. Donc il y avait une remise en cause de l'autorité de l'État au niveau local dans le département, dans les départements algériens. Donc on est à ce, voilà, on est à ce niveau-là de crise avec l'article 16. Et l'article 16 prévoit que, dans ce cas-là, le président de la République peut prendre des décisions. Mais que ces décisions doivent être guidées par l'esprit et la volonté de permettre au pouvoir public constitutionnel de fonctionner normalement. Donc le président de la République, avec l'article 16, ne peut pas faire ce qu'il veut. Il doit chercher à permettre au pouvoir public de fonctionner normalement. Donc il ne peut pas... je sais pas, moi, faire passer un budget, par exemple. Il peut pas réformer la, il peut pas réformer les retraites. Il peut pas faire une réforme scolaire. Il peut pas. Non, c'est pas ça l'enjeu. L'Assemblée peut toujours se réunir pour le destituer, par exemple. Exactement. Exactement. L'Assemblée peut toujours se réunir. C'est d'ailleurs prévu par l'article 16 que l'Assemblée nationale se réunit de plein droit. Si elle est hors session, les députés ont le droit de se réunir tout de suite. Il n'y a pas de « Ah non, non, on est hors session, vous ne pouvez pas, les portes sont fermées. » Article 16, réunion du Parlement. Donc destitution, s'il faut, en haute cour. Donc voilà, et tout ça est placé sous le contrôle du Conseil constitutionnel qui a l'obligation d'être saisi pour juger si oui ou non les conditions sont toujours réunies pour cet article 16. Donc c'est pas un article magique comme on le penserait. Non, c'est pas un article magique comme on le penserait. Alors, comme c'est un article qui excite un peu les passions, etc., il y a quelques juristes qui ont dit ces dernières semaines qu'il y avait une situation dans laquelle éventuellement on pourrait imaginer qu'Emmanuel Macron utilise l'article 16. Cette situation, c'est si on se retrouve le 31 juillet, pardon, si on se retrouve le 31 décembre, excusez-moi, sans budget voté, sans crédit engagé, avec un problème grave et immédiat, qui est que dès le 1er janvier, on ne peut plus payer les militaires. Pour des raisons de sécurité nationale, pour des raisons de fonctionnement des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, on pourrait imaginer que le président de la République prenne des décisions d'engagement de crédit pour payer les militaires, etc., etc., dans un hypothétique shutdown. Mais ça ne vient qu'en dernier recours, après l'épuisement de toutes les voies légales existantes à l'Assemblée et au Sénat, dans un truc désespéré, machin. Donc autant dire, voilà, donc c'est une situation spéculative et il y a beaucoup d'étapes avant cette situation dans lesquelles on n'est pas encore. Donc il va se passer d'autres trucs avant qu'on arrive là. Toujours se méfier avec la spéculation, hein, quand on fait du droit constitutionnel, c'est toujours rigolo d'imaginer des situations, mais le problème c'est que le droit constitutionnel, c'est un peu un truc ancré dans le réel et dans le concret. Voilà. Faut vraiment faire nimp pour en arriver là. Ouais. Je me souviens d'un constitutionnaliste qui disait, en fait, faudrait, pour en arriver là, il faudrait vraiment que y ait 300 députés qui veulent absolument bloquer le pays. Mais genre, c'est une espèce de volonté affirmée. que vraiment ils ont envie de rien, de limite c'est un plaisir pour eux de que les fonctionnaires soient pas payés quoi. Les députés ont beau être en désaccord politique, etc. Quand on est au pied du mur à un moment grave où l'enjeu c'est plus la droite la gauche, là c'est juste de savoir si les enseignants vont être payés demain matin quoi. C'est vraiment voilà. À ce moment-là, oui, l'article 16, peut-être, faut imaginer. Mais la preuve que ça n'aura pas lieu, c'est que tout le monde a voté la loi spéciale. La loi spéciale qui vient d'être votée, elle sert justement à ça. Hein. Elle sert à reconduire des crédits, en l'occurrence ceux de l'année dernière, pour permettre à la France de fonctionner. Bon, ben voilà, tout le monde l'a voté. C'est bien la preuve que tout le monde est d'accord pour dire « Oui, bon, d'accord, enfin, vas-y, viens, on paye les fonctionnaires. Enfin, c'est pas le sujet, c'est... Voilà. » LFI s'est abstenu. Oui, j'ai vu ça, oui, pardon. La France Insoumise. Attends, t'es sûr? Oui, il y a eu une abstention de la France Insoumise. Tous les autres groupes ont voté. LFI veut pas payer les fonctionnaires. Attention, ils se sont abstenus, ils ont pas voté contre. Non mais enfin, je veux pas, je m'en fous, pas pour minimiser quoi que ce soit, je m'en fous, mais c'est pas la même chose de s'abstenir et de voter contre. Voter contre, c'est vouloir empêcher. S'abstenir, c'est ne pas vouloir bloquer. Voilà. Mais bon, vous pouvez être en désaccord avec moi si vous voulez. C'est pas très grave, vous avez le droit, c'est pas grave. C'est quoi du coup que Braun Pivet a bloqué? Yael Braun Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a bloqué avec l'article 40 des propositions d'amendement à la loi spéciale qui visait à modifier le barème de l'impôt sur le revenu. T'as probablement raison, mais c'est pas l'image que ça renvoie vu leur réputation. Oh, mais ça, c'est leur problème. Moi, je vous explique. Je suis pas là. Je fais ni la com' d'Alafi, ni la com' de personne, d'ailleurs. Je vous explique. Après, vous avez les jugements que vous voulez. Hein. Vous êtes responsable de vos bulletins de vote, hein, c'est pas moi. Hein. C'est bon, hein, ça va maintenant. Hein. comment devient-on président du Sénat ou de l'Assemblée? Il faut être élu, oui. Oui, exactement. Le président du Sénat, il est élu par le Sénat. Présidente de l'Assemblée, elle est élue par l'Assemblée. Bon, vraiment, c'est bête et méchant en plus. Hein. C'est le premier jour de la rentrée, juste après l'élection. Qui est candidat? Qui vote pour? Merci, au revoir, terminé. Tu t'es battu avec ton chat? Oui, enfin c'est mon chat qui s'est battu avec moi. Moi j'ai rien fait, franchement. Moi j'étais là, je ronflais, genre normal, il est 5h du mat, tu vois, tranquille. Et c'est lui, il a gagné. Il a attaqué et tout. Est-ce qu'on pourrait être président du Sénat sans être sénateur? Non, enfin, bien que ce soit pas écrit formellement, ça paraît impensable que quelqu'un qui ne soit pas élu au Sénat soit élu président du Sénat. Pareil pour l'Assemblée. Pourquoi le Sénat est depuis si longtemps à majorité à droite? Alors, le Sénat... Comme vous le savez, les sénateurs sont élus par les maires et les élus locaux, mais surtout les maires. Il se trouve qu'en France, il y a un très grand nombre de mairies qui sont des mairies de petits villages ruraux. Et il y a même une surreprésentation des petits villages ruraux. Et les maires des petites villes rurales votent plus conservateurs que à gauche. Donc il y a voilà, une déformation. En fait, c'est une juste représentation des élus locaux, mais c'est une déformation par rapport au reste du pays. Il y a beaucoup plus de gens qui habitent en ville, etc. Par ailleurs, je vous rappelle toujours hein, que le Sénat n'est pas une force de blocage. Le fait que le Sénat soit à droite n'empêche pas la gauche de gouverner quand elle est élue. Le Sénat ne peut pas être une force de blocage. Il peut être une force de proposition, de suggestion, d'amélioration, de contre-pouvoir, de balancier, de tout ce que vous voulez, mais elle ne peut pas bloquer. Parce que les maires sont plus instruits que leurs administrés. Ah ouais. Tu verrais la gueule des maires. Ils sont plus d'accord, donc c'est pour ça qu'ils votent à droite. Leurs administrés, ils sont cons comme des tables, ils votent à gauche, mais leurs maires, eux, qui sont instruits, votent à droite. Donc du coup, ça équilibre. Sous Hollande, le Sénat était à gauche. Alors oui, le Sénat a basculé à gauche, c'était en 2010. C'était 2011, juste avant la présidentielle. Il a basculé à gauche, c'était le socialiste François Bayle. Non, c'était pas François Bayle. Philippe Bayle ? Non, je confonds avec Philippe Le Bel. Jean-Jacques Bayle ? Je sais plus. Baby Bayle. Ouais, c'était Baby Bayle. Jingle Bayle. C'était Jean-Pierre Bayle, qui était président du Sénat, président socialiste du Sénat, puisque la gauche s'est retrouvée majoritaire pendant quelques années, avant de rebasculer à droite après. Sous Hollande, l'ensemble des constituantes de la République étaient majoritairement à gauche. Alors, non. La gauche avait l'Assemblée nationale, la quasi-totalité des régions, beaucoup de départements, beaucoup de grandes villes. Ils avaient le gouvernement, ils avaient la présidence de la République, ils avaient le Sénat. Il restait l'Académie française, la rédaction du Figaro. Le Conseil constitutionnel, qui sont des institutions de la République, hein, qui étaient à droite. Le MEDEF restait à droite, ouais. Le Conseil municipal de Pau était MODEM. La ville de Cholet. donc voilà, il restait des institutions à droite. Mais blague à part, oui, bien sûr, la gauche en 2012. Je vous rappelle qu'en 2012, on sort d'une période où ça fait 10 ans que la droite est au pouvoir. Ça fait 10 ans que la droite est au pouvoir, d'abord avec Dominique de Villepin, Jacques Chirac, puis avec Nicolas Sarkozy, François Fillon. Et que l'impopularité a beaucoup, beaucoup grignoté la droite. Donc la gauche a gagné des batailles parce que la gauche était l'alternance dans les élections intermédiaires, donc les municipales, les départementales et les régionales. Puis la gauche a remporté l'élection présidentielle en 2012, les élections législatives dans la foulée. Le fait que le Sénat passe à gauche, ce n'était que la traduction du fait que les élections intermédiaires étaient favorables à la gauche. Je me souviens que le sénateur Jean-Luc Mélenchon était ravi de voir le socialiste Jean-Pierre Bayle présider le Sénat. C'était une belle victoire pour lui. Lui qui s'était battu dans l'opposition au Sénat pendant des années. Et voilà quoi. Une crise politique comme celle qu'on vit peut-elle dégénérer en pronunciamiento militaire? Non. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les militaires? Moi, j'ai beaucoup de respect pour les forces armées. Hein. Je veux dire, c'est quand même des professionnels, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Pour tout ce qui est calibrer des missiles, faire du renseignement militaire, déployer des troupes, du matériel, etc. Ils savent faire. Hein. Ils sont quand même très, très calés, ils s'entraînent et tout. Bravo à eux. Qu'est-ce que tu veux que des militaires trouvent comme solution à la crise du chômage, à la crise de la dette? Moi, je serais militaire, on me proposerait le pouvoir, je dirais non. Non, mais non, 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 vraiment, non, 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 ah non, 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 ah non, mais foutez-moi la paix. Hein. Là, vos délires, c'est votre problème. Hein. Moi, je suis pas responsable de la coalition gouvernementale, le NFP, machin. Je. Non, 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 non. Non, puis alors, moi, je suis pas très bon négociateur. Hein. Enfin, pardon, excusez-moi, mais je suis quand même formé à. Bref. Non, non, je vous jure que non. La crise que nous traversons, chers amis, est une crise relativement normale et habituelle pour un régime parlementaire. On a du mal à constituer un gouvernement. C'est pas gravissime comme crise. C'est même assez habituel pour des démocraties matures et normales. Nous, en France, comme on a été matrixés par la Ve République, moi le premier, on a l'impression qu'on est en train de vivre une situation catastrophique, inextricable, etc. Les Belges, les Suisses, les Allemands, les Danois, etc., ils nous regardent en rigolant. Ils sont en mode ah. Hey, ça va les Français? Première fois? Courage, courage. Tu vois, c'est... Donc non, non, c'est pas la fin du monde. Non, il n'y aura pas d'article 16. Non, il n'y aura pas de prise de pouvoir militaire. Non, on n'est pas en crise... on n'est pas en crise de niveau alerte rouge militaire. On est dans des difficultés d'ordre parlementaire. On a une assemblée nationale tripolarisée. Alors, on peut dire que la crise qu'on traverse est symptomatique d'institutions à bout de souffle, et je suis d'accord. On peut dire que nos institutions sont rincées et qu'elles sont incapables de dépasser la situation. Je suis d'accord, intéressant. Ok, on peut dire tout ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est dans une crise avec un C majuscule, alerte rouge, cinquième niveau, allô les militaires, sauvez-nous s'il vous plaît. L'armée appelée pour voter le budget, non mais voilà. L'armée qui va voter les budgets de la culture. Ça tourne en boucle sur le mot crise, normal que le stress monte. Non mais je suis d'accord avec toi, il y a une surutilisation du mot crise. La crise, c'est la crise. Déjà, c'est la crise depuis les années 80. Je vous rappelle, c'est la crise. C'est la crise. Voilà, on est en pleine crise. C'est la crise. Avant ça, il y a eu la crise des chocs pétroliers. Avant ça, il y a eu la crise des missiles de Cuba. C'est la crise. Bon, on vit en crise. Moi, je suis né en crise. J'ai 36 ans, on est toujours en crise. Je pense que je claquerai un jour, on sera toujours en crise. Donc, effectivement, il y a un problème avec le mot crise qui, en fait, désigne davantage des mutations que des crises. Parce qu'en plus, il y a un problème avec la notion de crise. C'est que la notion de crise suppose qu'il existerait une manière normale, standard, de fonctionner et qu'on serait dans une situation anormale. Sous-entendu qu'il faudrait chercher un retour à la situation normale. Mais ça, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Il n'y a pas d'année zéro de la vie politique, économique, sociale, etc. Le monde change tout le temps et il ne va pas s'arrêter de changer. On va continuer à changer. Donc, résoudre la crise, mais résoudre pour revenir à quoi? Je dis pas qu'il faut pas faire des choses. Je dis pas que je suis pour un statu quo, etc. Non, il y a plein de réformes à faire, de trucs à faire, certainement. Mais la notion de crise est ancienne. Et vraiment, j'ai l'impression que la notion de crise nous vrille le cerveau, nous empêche de penser la politique, en nous donnant en plus cette espèce, comme tu l'as dit, effectivement, ce côté d'urgence en permanence. On est en urgence, c'est l'urgence, c'est urgent. Attention, on ne peut plus respirer, etc. Ah, hein. Comment réagissent les droites vis-à-vis du retour au cumul des mandats? Les Républicains n'ont jamais été favorables à l'abolition du cumul des mandats. Ça, je me souviens des débats parlementaires à l'époque. Les Républicains étaient vent debout contre cette idée socialiste d'empêcher les maires d'être députés. Quel affront! Donc les Républicains, ils sont très contents pour le retour du cumul des mandats. Le MoDem, on sait qu'ils sont pour, depuis pas longtemps, mais ils sont pour. Les macronistes, j'en sais trop rien. Je crois qu'Emmanuel Macron avait eu l'occasion dans une interview de dire qu'il était défavorable à la fin du cumul des mandats et qu'il pense que c'était pas une bonne idée. Bon. Et le Rassemblement national, j'en sais rien. Partagé, mais plutôt contre. Contre le cumul des mandats ou contre le retour au cumul des mandats, Denis? Donc voilà. Contre le retour du cumul. Mais c'est un ressenti. Je suis d'accord avec toi, je pense que c'est. On verra, Denis, mais j'ai l'impression que c'est plutôt contre. Écoutez, si on a une proposition qui revient à l'Assemblée nationale, elle a de fortes chances d'être adoptée. Elle a de fortes chances d'être adoptée. Le Sénat, de son côté, lui, il est pour le retour du cumul des mandats. Alors, les sénateurs, majorité à droite, conservateurs, franchement, eux, sénateurs-maires, ça leur irait très bien. Hein. Je me souviens, il y a 10 ans, parce que moi, j'étais un militant contre le cumul des mandats à l'époque. Hein. Je me souviens des débats parlementaires sur l'abolition du cumul des mandats. Il y avait un député de droite qui avait proposé un amendement pour obliger le cumul des mandats. C'est-à-dire que lui, il avait poussé la logique encore plus loin de la défense du cumul des mandats en disant non seulement il faut que les députés puissent être maires, mais il faut que les députés soient maires. Donc lui, il avait proposé de rendre le cumul des mandats obligatoire. Seuls les maires pouvaient, avec son amendement, se présenter aux élections législatives. Je reconnais à ce député de la constance. Je lui accorde de la constance. Il a poussé la logique. Il est allé dire, est-ce que je défends le cumul des mandats? Je vais aller plus loin. Il faut aller au bout. Il faut aller au bout de la logique. Voilà. C'est du troll. C'était pas du troll. Non, non, il était premier degré, hein. C'était un sénateur-maire. Je vous dirai pas son nom parce que ça va vous vriller le cerveau et je vous connais. Mais il avait poussé le bouchon et puis il était allé au bout de la logique et voilà. Ah non, non, je vous dirai pas, je vous dirai pas. Commencez pas, hein. T'en as trop dit. Bon, et je vous le dis, c'était Patrick Balkany. Je sais que ça va vous vriller le cerveau parce que Balkany, voilà, les affaires et tout machin. À l'époque, il était sénateur-maire de Levallois. Il était un des piliers de l'UMP. Il savait ce qu'il disait et il avait déposé son amendement. Voilà. Ah, je savais que ça ferait ça. Je savais que ça ferait ça. Je pense que pour être streamer, il faut être youtubeur. Interdit de streamer si t'as pas déjà une chaîne YouTube.
Donc voilà. Bah écoutez, on verra si François Bayrou propose une loi de retour au cumul des mandats. Balkany, c'est pas un politique, c'est une marionnette. Ne commettez jamais l'erreur de sous-estimer vos adversaires. Je vous le dis souvent. Patrick Balkany, c'est loin d'être un débile. Il a été un bonhomme qui a compté beaucoup à un moment dans une certaine droite et une certaine manière de penser la droite. Il fait partie des enfants Pasqua, d'ailleurs. Hein. Il fait partie, bah, c'est les Hauts-de-Seine, hein. Les bébés Pasqua, avec Nicolas Sarkozy. Donc, ouais. Merci Jojo Turbo pour les 10 subs offerts au chat, c'est hyper généreux de ta part. Merci. Merci, merci, merci.
Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Merci. Les bébés Pasqua. Charles Pasqua, putain, ça remonte loin les copains. Charles Pasqua, 1986, ministre de la... ministre de la de l'Intérieur, qui a été un maire, qui a été un dirigeant assez puissant du département des Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine sont à la droite, ce que la Seine-Saint-Denis sont à la gauche, d'accord? Un réservoir, une école de pensée, un bastion, un fief, un laboratoire, j'ai déjà dit. Charles Pasqua a été l'un des premiers ministres de l'Intérieur à imprimer cette manière très virile et brutale d'être le premier flic de France. Charles Pasqua s'est battu notamment contre les terroristes en Corse, les nationalistes qui faisaient parler la poudre. Charles Pasqua est un ancien du SAC, du service d'action civique, qui était un peu les gros bras des gaullistes. Bref, voilà. Et dans les escarcelles de Charles Pasqua, il y a une génération de jeunes de droite qui ont commencé à monter derrière lui et grâce à lui. Ce sont toute une génération de mecs qui ont le même âge hein, d'ailleurs et qui ont conquis les Hauts-de-Seine petit à petit. Les Sekeldi Reynaud, Devedjian, Sarkozy, Kosowski. Balkany, Hortefeux. Donc voilà. Tous ces gens-là, tous ceux que je viens de vous citer, ce sont des maires, des Hauts-de-Seine. Donc ce sont des hommes qui, chacun, sont allés dans des bastions, certains tenus par la gauche, certains tenus par le centre, etc., et qui les ont conquis les uns après les autres, etc. Et ces hommes-là, bah, comme vous le savez, ont été les architectes de ce que sera plus tard la droite décomplexée de Nicolas Sarkozy. C'était un peu le coin anti-Chirac au sein du RPR. Pro-Balladur. Donc voilà quoi. Le maire de Courbevoie, pourquoi il était... un peu à part et pourtant toujours à droite. Lui, en l'occurrence, Kosowski, il a changé un petit peu au cours de sa carrière politique. Il y a eu un moment, où, enfin, il y a eu une année où il a vraiment basculé et il s'est un peu éloigné du sarkozisme. Il est devenu beaucoup plus modéré. Pareil pour Philippe Devedjian, avant sa mort, hein, qui s'est éloigné. Enfin, il y a un moment, il était prévu qu'éventuellement il devienne ministre de la Justice dans le premier gouvernement Fillon, puis finalement ça a été Dati, etc. Enfin. T'as été un peu compliqué, et lui aussi, Devedjian, il s'est séparé de Nicolas Sarkozy, il est devenu... Patrick Devedjian, pardon, pas Philippe. Patrick Devedjian. Il est devenu un peu critique de Nicolas Sarkozy. Donc, ils ont tous eu des trajectoires différentes, hein. Ils ont tous eu des trajectoires différentes, mais ils ont commencé ensemble. Tu penses quoi de l'après Kosowski à Courbevoie? J'en pense rien, j'en pense rien. Moi, j'ai grandi à Courbevoie, mais j'ai jamais fait de politique à Courbevoie. Pas du tout mon truc.
En plus, il est toujours là, apparemment. Voilà, j'en sais rien. C'était pas mal Courbevoie, je vivais à côté. Courbevoie, alors moi j'y ai grandi, mais c'est pareil, c'est très grand et il y a plein de quartiers hyper différents les uns des autres. Hein. Le côté Bécon où j'ai grandi, où t'as un côté un peu faubourien, ancienne ville ouvrière, etc. T'as le côté La Défense, il n'y a que du béton, des buildings, des gratte-ciel, etc. Côté Seine, côté Nord, enfin franchement c'est... Ouais. Pardon, excusez-moi, je suis en train de vous décrire ma ville d'enfance. Tout le monde s'en branle, hein. Mais des milliers d'influenceurs, dont des Français, approchés par des personnes proches du Kremlin pour diffuser de la propagande pro-russe. Ah bon? Ah tiens d'ailleurs ça me fait penser dans le cadre d'un partenariat je devais vous dire que Bachar el-Assad c'est un mec bien et que c'est injuste qu'il ait été viré du pouvoir par des terroristes et par ailleurs la guerre en Ukraine c'est pas une guerre en fait c'est une agression de la part de l'OTAN contre le peuple russe. Voilà je devais vous le dire, pardon c'est un partenariat. Communication commerciale évidemment. Faut l'assumer la blague. Ouais, je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Hein. C'est payé en rouble. C'était payé en rouble d'ailleurs, c'est bizarre. Ça vaut combien le rouble? Ah, oh, je me suis fait niquer, c'est encore un partenariat mal payé. Vas-y, fais chier. Vous connaissez Holskern? C'est EstVPN. C'est EstVPN. Découvrez le VPN du Kremlin. Vous pouvez vous localiser n'importe où en Russie. C'est génial. Vous pouvez avoir accès à toutes les séries de la télévision russe. L'enfer. Vos connexions sont sécurisées. Oui, vos connexions sont sécurisées par des hommes armés. Qui viennent de Tchétchénie, qui viennent de Corée du Nord. Enfin, c'est... Non, non, c'est bien foutu, hein. C'est bien foutu. Vous avez accès à des films pornographiques si vous êtes nord-coréen. Non, non, SVPN, c'est vraiment le meilleur VPN. Vos données sont sécurisées, vos données sont plus que sécurisées. Elles sont triées, elles sont lues, vérifiées, inventoriées, puis sécurisées. Non, non, c'est vachement bien fait, hein. J'ai aussi vu traîner des infos à propos d'un vaccin miraculeux russe. Penses-tu que ce soit une info politique ou une vraie communication à propos de leurs recherches? Le vaccin Spoutnik. On en reparle du vaccin Spoutnik? Bon, à l'époque, il y avait Mélenchon quand faisait la promotion, puis il a arrêté. Qu'il a dit que s'il avait le choix entre un vaccin de Pfizer et un vaccin Spoutnik, il prendrait le Spoutnik. Ça n'a pas duré longtemps. Mais il l'a fait quand même. Mais non, non, ouais, je me souviens, le vaccin Spoutnik. Le vaccin qui va... Ouais, la Grande Russie. Merci pour le sub offert à François Bayrou officiel. Ma grand-mère iranienne a été vaccinée sous Spoutnik. Et alors, ça va? Elle est satellisée depuis. Maintenant, elle parle russe couramment. Eh, c'était marrant quand même cette époque. Vous vous souvenez de cette époque, l'époque du Covid? Alors, je dis c'est marrant, c'est moche parce qu'il y a quand même des gens qui mouraient quand même, hein, je rappelle. C'était pas marrant, j'ai perdu des proches hein, dans le Covid. Mais je me souviens aussi de la quantité de blagues qu'on faisait à la minute sur le chat. À chaque dinguerie qui sortait sur le confinement, sur les vaccins, la 5G, les antivax, les Raoult. Raoul, t'as la télé tous les jours. En vrai, on s'est bien marré. Moi, j'ai le souvenir de en stream, on passait un moment un peu marrant quand même. Heureusement, parce qu'on était tous confinés, on se faisait chier, on déprimait. Tant qu'à faire, on se retrouvait surtout ici, on racontait des conneries pendant des heures. Quel festival? Mais bien sûr, il y avait les manifs anti-vax avec l'ancien du RN, là, comment il s'appelle? Putain, je suis fatigué. L'ancien du RN qui a quitté Marine Le Pen. Florian Philippot. Florian Philippot. Génie. Grandiose. Florian Philippot, le leader des anti-vax de France. Ah putain, avec les manifs anti-vax et tout. Avec Julien Pin qui allait avec son petit micro, il se faisait allumer par des vieux complètement matrixés. Il leur posait des questions simples. Ah, les médias mentent. Ah bon? Quel exemple? Dupont-Aignan aussi, Dupont-Aignan et la pharmacie. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo de Dupont-Aignan et la pharmacie? Devant la pharmacie de l'Assemblée nationale. Dupont-Aignan, pharmacie. Merde, où est-ce que je vais retrouver cette vidéo légendaire? Dupont-Aignan qui a voulu faire un buzz. Merde, je la retrouve pas. Nick. Martine Vonneur. Oh! Martine Vonneur, putain. À l'Assemblée nationale, elle prenait la parole pour dire des dingueries. Non, je parle pas du Dupont-Aignan devant les péages d'autoroute. Celle-là, elle est trop facile. Celle des péages, elle est trop facile. On l'a trop faite. Non, je vous parle de la fois où Dupont-Aignan, il a mis son masque à l'envers. Il a mis son masque à l'envers pour parler des masques. Pour sa défense, c'était le tout début. On apprenait tous à mettre un masque sur notre tronche, et lui, il avait foutu à l'envers. Il a dit, c'est hyper important le masque, faut le porter et tout. C'est vraiment les. Comme Bayrou qui le met sur les yeux, oui. Non, bah, j'ai pas retrouvé cet extrait-là qui était absolument légendaire. C'était une petite vidéo qu'il avait diffusée, à mon avis, il l'a supprimée. Hein. Même tout le monde s'est foutu de sa gueule. Vidéo du HuffPost. Vas-y, je vais essayer ça. Ah, c'est celle-là. Son masque à
Le masque, c'est le fameux FPP2.
Alors. Pardon, on commence. Il a son masque à l'envers sur la tronche au début. Et après, il dit FPP2 au lieu de FFP2.
Le masque, c'est le fameux FPP2. Aujourd'hui, le gouvernement annonce la livraison de millions de masques chirurgicaux qui n'ont rien à voir avec ces masques dans les pharmacies pour les personnels soignants. Le personnel soignant devrait être fourni par ces masques.
Bon, c'est chiant. Vous avez compris la blague? Vous avez compris la blague. Cette vidéo nous avait fait hurler de rire à l'époque. Parce que quand même, quand c'est la dèche, il y a toujours du Dupont-Aignan pour dire des conneries. Et ça fait plaisir. Ouais, non, si, on s'était bien marré, ouais. Tu te souviens de Philippot qui appelait à un confinement drastique au début du Covid avant de capter qu'il avait trouvé une niche? Absolument. Une des premières vidéos de Florian Philippot qui réagit au Covid, il explique que le gouvernement fait de la merde, le gouvernement attend trop, il faut immédiatement confiner le plus possible la population, que c'est un scandale que le gouvernement ne fasse pas plus de pour confiner les gens, mettre à l'arrêt l'économie, etc. Les gens sont en danger et tout, et tout, et tout. Quelques semaines plus tard, il devient le leader des antivax pour la liberté de respirer, etc. machin. Ça, je m'en souviens très bien, ouais. Je savais pas ça. Si. Ah si. Florent Philippot, tu retrouves la vidéo aujourd'hui. Florent Philippot a essayé de la supprimer, mais tu retrouves la vidéo. Florent Philippot, très sérieux, face caméra. Pareil, hein, filmé avec un téléphone portable qui dit il faut confiner au maximum, le plus vite possible, protéger la population. Genre. Cascade réalisée par un pro. Ouais, exactement. Non, non, c'est... On a des professionnels hein, dans la classe politique française. On en a des bons. Hein. On a des bons. Ouais, non, je sais pas. Ouais, le Covid, politiquement, c'était un peu n'importe quoi. C'était un peu bordélique. En même temps, c'était inédit de ouf. Hein. On vivait un truc que personne n'avait jamais vu. Donc, c'était un peu la découverte. Je faisais des émissions depuis chez moi, j'étais interviewé par les médias en visio. Genre BFM TV et France Info, ils étaient quasi en full visio tout le temps. Oh, c'est pas vrai, non, ils avaient des plateaux. Mais... Heureusement, maintenant, ça va mieux. Ah bah oui, back to normal. Back to normal, la vie politique française reprend ses droits... François Bayrou est Premier ministre, les Républicains savent pas s'ils vont participer au gouvernement, et François Hollande sait pas s'il va le censurer. J'adore. Si vous voulez que je vous dise. J'ai le sens de l'humour. Vive notre timeline. Ah, il faut reconnaître qu'elle est gratinée, notre timeline. Elle est gratinée. Non, mais pas bien, là. Le renouveau du macronisme qui se termine avec François Bayrou, Bruno Retailleau et François... Bon, après, François Hollande, ils sont pas responsables, mais... Bruno, il n'est pas nouveau ? Non. Enfin, ceux qui connaissent la politique savent que Bruno Retailleau, c'est un ancien. Et je l'avais interviewé, Bruno Retailleau, dans Sénastream à l'époque. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs l'interview politique que j'avais faite parce qu'il était rentré très très loin dans la philosophie de l'architecture de la pensée de droite, sur laquelle il avait quand même beaucoup de choses à dire parce qu'il est issu de l'extrême droite. Il a grandi avec Philippe de Villiers en Vendée et il a fini par se séparer de Philippe de Villiers pour renoncer à l'extrémisme originel de ses premiers engagements et rentrer dans le rang d'une droite plus respectable, etc., l'UMP puis les Républicains. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un homme qui a évidemment conservé l'ensemble de ses structures de pensée d'extrême droite, absolument. Bruno Retailleau a une vision de la société, de la nation, qui est profondément ethnoculturelle. Au fond du fond, c'est comme ça qu'il voit la France. C'est d'abord ethnoculturel, avant d'être politique. La République, les droits de l'homme, tout ça, etc. Il est très chrétien, oui, il est très chrétien, très catholique, en plus d'être chrétien, très catholique, extrêmement sensible à tous les enjeux sur les mœurs. C'est-à-dire que pour lui, le mariage homosexuel, c'est pas rien, c'est pas anodin. C'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de... c'est quelque chose qui touche non seulement à l'intime, mais à la structure profonde de la société, un truc auquel il ne veut pas qu'on touche, parce qu'il est conservateur et qu'il ne veut pas la déstabilisation des structures sociétales. La PMA, la GPA, la fin de vie, c'est des sujets très importants pour lui. Ce n'est pas secondaire du tout. Est-ce que tu penses crédible le souhait de Macron de ne pas redissoudre l'an prochain ? Oui. Oui. Oui, Emmanuel Macron ne souhaite pas redissoudre. Mais une fois que j'ai dit ça... Enfin, c'est pas lui qui décide. Hein. Si, c'est lui qui décide, mais encore une fois, les circonstances, on verra. Enfin, tu peux toujours le dire. C'est comme je ne démissionnerai pas. Tu peux toujours le dire. D'ailleurs, je vous le dis, je ne démissionnerai pas. Voilà, je resterai streamer. Bon, bah, on verra. On verra et on verra si c'est possible ou pas. Est-ce que tu penses que Macron regrette son coup de poker avec la dissolution ? Non, Emmanuel Macron ne regrette pas la dissolution. Il l'a dit dans son allocution. Il y a quelques semaines, la semaine dernière, il a très clairement expliqué que son choix était le bon, qu'il avait mal été compris. C'est vous qui n'avez pas compris, mais lui, il avait raison. Voilà. Donc, de son point de vue, c'était une bonne idée, c'était nécessaire, c'était inéluctable même. Bon, ben voilà. Ça devient maladif de ne pas accepter ses erreurs. Bah. Est-ce que c'était une erreur? La dissolution? Ça dépend de quel point de vue on se place. Pour lui, oui, oui. Pour lui, oui. Et pour les autres. Il a perdu sa majorité. Ouais, il a perdu sa majorité. Mais je suis curieux qu'il n'y ait pas, je suis curieux qu'il n'y ait pas plus de gens proches du NFP dans ce chat. D'habitude, vous êtes plus nombreux et plus vocaux. Pour dire que c'était très très bien la dissolution. Une très bonne idée. Ouais, la preuve. La preuve, on a gagné. Tu vois. On est fatigué. Ah. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Juste quand on voit le score du RN, c'est pas une réussite. Oh, bah oui, sauf pour le RN. Le RN, premier parti de France, ils sont contents. Hein. 11,5 millions de voix. Je remets pas une pièce dans la machine. Non, non, je remets pas une pièce dans la machine. Promis. On tourne en boucle. Oui, oui, comme d'hab. C'est exactement ça. T'avais pas signé une tribune encourageant le vote NFP ? Si, au second tour, si. Ici, j'avais dit que face au RN, il fallait voter n'importe quoi, y compris NFP. Ou macroniste, peu importe. Enfin, Front Républicain, quoi. Ça existe encore le NFP? Apparemment, ouais. Apparemment, ouais. Non, apparemment, oui. Oh là là, les gars, putain, on tourne en rond. Non, mais. Je pensais à quoi? Deux trucs à vous dire pour Backseat demain. Ça commencera à 18h30 parce qu'on a un Bifor. On est en partenariat avec l'Agence française de développement qui va nous parler de ses projets de l'aide au développement international et de ce qui est fait par cette agence. L'AFD agit par ailleurs à Mayotte également, même si c'est sur le territoire national. Il y a des actions de l'AFD, on en parlera. C'est l'occasion. Première chose. Deuxième chose, on reçoit Erwan Balanant demain. Alors, vous ne connaissez peut-être pas Erwan Balanant, mais je vous suggère de regarder Backseat demain quand même, parce que Erwan Balanant, il est secrétaire général adjoint du MoDem. C'est un vieux compagnon de route de François Bayrou. Et je vais l'interviewer, enfin, j'ai prévu en tout cas de commencer l'interview en lui posant pas mal de questions sur c'est quoi l'identité politique du MoDem, c'est quoi l'architecture de pensée, c'est quoi l'idéologie, c'est quoi les valeurs, c'est quoi comment ça s'articule avec le macronisme, etc. Il y a des subtilités quand même dans les différences entre Bayrou et Macron, entre le MoDem et les macronistes, entre la démocratie chrétienne et le libéralisme, c'est pas tout à fait la même chose. Donc j'ai un peu prévu de le cuisiner là-dessus pour qu'il nous explique. Ensuite, on va lui poser plein de questions, évidemment, sur l'actualité politique immédiate, les coalitions possibles ou impossibles, etc. Donc voilà quoi. Erwan Balanant, invité politique, l'AFD en Bifor. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire sur la newsletter de Backseat. Je vous rappelle que Backseat a créé une newsletter. La newsletter qui s'appelle Siège arrière. Et c'est pas une blague. Elle s'appelle vraiment Siège arrière. Elle est dirigée par Sacha Beckerman. Point d'exclamation newsletter pour vous inscrire. Inscrivez-vous et vous recevrez voilà, chaque semaine la newsletter qui va bien. Tu nous fais pas une popcorn demain? Non, 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 je le dirai demain en plateau. Mais je tiens à faire un grand salut fraternel et amical aux copains de Popcorn qui ont fait une émission exceptionnelle pendant 6 ans. 6 saisons de Popcorn. J'ai jamais caché le fait que Popcorn a été une inspiration pour moi pour créer Backseat. Donc bravo les copains de Popcorn pour tout ce que vous avez fait. Bravo à toute l'équipe. Bravo à toi PA évidemment. C'est une émission fantastique que vous avez réussi à créer. Un rendez-vous exceptionnel sur Twitch pour tout le Twitch game. Et bravo vraiment pour toutes ces belles années. Et merci pour l'inspiration et longue vie pour vos projets futurs. Tout, 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 mais je le redirai demain parce que moi c'est vraiment important. Donc voilà. Backseat demain, ouais, Backseat demain, carrément, Backseat demain. Hein. Backseat demain dès 18h30. Ce sera la dernière de l'année civile de Backseat, on reprendra en janvier. Mais il y a une pause parce qu'il y a des travaux qui vont être prévus également, donc on reprendra en janvier Backseat. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire pour demain? Non, je crois pas. En vrai, c'est coolos. C'est sur cette chaîne? Oui, Backseat, c'est sur ma chaîne. Backseat, c'est sur ma chaîne à 18h30 demain. Et notre invité politique, ce sera Erwan Balanant, qui est secrétaire général adjoint du MoDem, et c'est un proche de François Bayrou. C'est un proche de François Bayrou, il a plein de trucs à nous dire. Il a plein de trucs à nous dire sur qui est François Bayrou, etc., etc. Et on sera en plateau avec Emilio, Namou et Safia. Place aux jeunes. Place aux jeunes dans cette émission. Voilà. Il me reste à vous faire des bisous. À vous souhaiter la bonne soirée. Est-ce que je restream ce soir du Flight Simulator? Je sais pas. Je sais pas si vous êtes sage ou pas. Je sais pas. Est-ce qu'on se fait un vol Flight Simulator de Pau à Paris pour ramener le Premier ministre? Bon, je le ferai peut-être ce soir. Peut-être ce soir. Parce que là, je suis tranquille aujourd'hui, donc un peu de temps. On verra. Tu fais des bisous, les copains. Merci d'avoir été là. Peut-être à ce soir. Ciao, ciao.